Si marqué dans le Rambam, dans les Halakhot Tshuva, au Perek Gimel, Halakha E, Halakha Aleph, Halakha Gimel, Kol Echad mi Israël, Yeshlo Sruyot Ve'avonot. Chacun d'Israël a des mérites et aussi des fautes. Vous savez, il y a encore des gens qui font des avérotes aujourd'hui. Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore. Donc, dans tout Israël, chacun d'Israël a donc des mérites et des fautes. Mish Esruyotav Yeterot Alavonotav, celui dont les mérites sont plus nombreux que les fautes, c'est un tzaddik. C'est injuste. Mishé Avonotav Yeterot Alsruyotav, celui dont les fautes sont plus nombreuses que les mérites, Racha. C'est un rachat. Un fauteur. Maintenant, Mertsa, celui qui est moitié-moitié, il fait autant de mitzvot que de averot. D'accord ? Alors, il est Benoni. Il est moyen. Maintenant, là, ici, on parle vraiment d'une comptabilité. Hein ? D'accord ? Bien qu'il y ait une autre manière de comprendre ça, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a une caméra, vous en faites pas, il a un ordinateur, il calcule vraiment même les mitzvot qu'on connaît pas, les choses qu'on sait, qu'on sait pas. Il y a des choses qui sont considérées involontaires, volontaires. Il y a des dizaines de livres qui ont été écrits. Et comme vous savez tous la règle, nul n'est censé ignorer la foi. D'accord ? Donc la foi, il faut la connaître. La loi, il faut la connaître. Celui qui ne la connaît pas, ce n'est pas grave. Il ira aussi au tribunal, mais seulement il sera considéré comme quelqu'un qui aurait dû savoir. Puisque vous savez que quand on est dans le ventre de sa mère, on a tous juré à Dieu qu'on serait tzaddique. Dieu, il ne vous laisse pas sortir du ventre de votre mère tant que vous n'avez pas juré que vous serez tzaddique. Donc on a tous juré qu'on serait tzaddique. D'accord ? Maintenant, est-ce qu'on va être sadique à jouer les pains ou on va être sadique ? Il faut se débrouiller, mais en tout cas, on l'a juré. Après, pour l'accomplir, il faut apprendre. Alors ici, c'est marqué, quelqu'un qui a une majorité de fautes. Une majorité de fautes. D'accord ? Ou quelqu'un qui a une majorité de mitzvot. Maintenant, on n'a pas dit quelqu'un qui fait que des mitzvot ou que des averot. C'est très rare. Alors, il fait un peu de mitzvot. Oui, un peu d'averot. Mais celui qui est moitié-moitié, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a fait pile 50% de mitzvot, pile 50% de averot ? Ou non, ça veut dire qu'on parle de la nature de la personne. Ça veut dire qu'il y a des gens, vous voyez, ils vont faire des mitzvot de bon cœur. Ils font du bien de bon cœur. Et de temps en temps, ils font du mal. Mais pas de bon cœur, ça les angoisse. Vous me suivez ? Il y a des gens, le contraire, ils font des averot de bon cœur. Et alors il les kiffe, incroyable. Et les mitzvot à l'arracher, ça veut dire pour leur tirer un kadish, pour leur mettre cette tefilin, c'est presque un viol psychologique qu'il faut faire, d'accord ? Il y a des gens, laisse-moi tranquille, d'accord ? Et il y a des gens moitié moitié qui font aussi facilement les mitzvot que les averot. Ils volent, après ils font la prière. Vous comprenez ou non ? Ils font un bon lashon hara, après ils font un cadeau à leur femme, ils sont tranquilles, il y a déjà un. Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire là, on parle maintenant, on ne parle plus du compte, donc toujours la comptabilité existe, ne vous en faites pas, elle est précise. Parce qu'une fois quelqu'un m'a dit, oh, tu crois que Dieu n'a que ça à faire de compter ? Il n'a que ça à faire. Il n'a que ça à faire. Dis-moi ton patron, il calcule à quelle heure tu viens, à quelle heure tu pars, ta rentabilité, tes frais, tes trucs, il n'a que ça à faire, il n'a que ça à faire. Alors si ton patron, à plus forte raison, de plus forte raison, le patron des patrons, il n'a que ça à faire. Maintenant, le problème, il est ça, c'est son côté à lui. Lui, il fait la comptabilité. Mais toi, ton côté à toi, qu'est-ce que ça signifie, quelqu'un qui a une majorité de fautes ? Bon, regardez, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Dans la vérité, le mensonge, d'accord ? Quelqu'un qui ment dans la majorité des cas, et de temps en temps, il dit la vérité. C'est quoi ? C'est un menteur ou c'est un type bien, mais bon, de temps en temps, il ment. C'est sa nature, c'est un menteur. Vous me suivez ? Le contraire, quelqu'un qui dit tout le temps la vérité, et de temps en temps, quand il ment pour le shalom, ça le tue, il tremble, il en est malade. Donc sa nature, elle est, c'est pas un menteur, c'est un homme de vérité. Mais si quelqu'un, il a un dédoublement de personnalité, il arrive à mentir sincèrement, je sais pas si vous... Et à part ça, il dit la vérité. Alors, lequel des trois qui est le plus dangereux ? C'est ambigu. Quelqu'un qui a une majorité de fautes, est-ce qu'il est plus grave qu'un type qui vit normalement avec la faute ? Vous savez, les extrêmes, ça s'inverse. Alors, il peut faire le contraire. L'amour, des fois, ça devient de la haine. Des fois, la haine, ça devient de l'amour. Des fois, la motivation, ça devient le désespoir. C'est les extrêmes. Mais celui qui a déjà institutionnalisé sa lourdeur, il y a le bien, il y a le mal, il y a les mitzvot, il y a les averot, comprenez ? Fait sa petite amida, après il voit en mode de nuit, après. Il est tranquille, qu'est-ce qu'il y a ? Vous comprenez ou non ? Il a déjà installé son truc. Celui-là, il n'est pas plus en danger encore. Il faut réfléchir. Le Rambam, un petit peu plus loin, il dit comme ça. Donc pour l'instant, on a compris que c'était une question de comptabilité, de compte. Le Rambam buste un peu, il dit après. Mishenim tsa tzadik. À propos du jugement de Rosh Hashanah. On parle maintenant juste après le jugement de Rosh Hashanah. Mishenim tsa tzadik. Celui que, le jour de Rosh Hashanah, il est sorti tzadik. C'est-à-dire que quand on lui a fait les comptes, on a compris, celui qui est tzadik, c'est celui qui a une majorité de mitzvot. Donc quand le jour de Rosh Hashanah, on a fait les comptes, on a vu qu'il avait une majorité de mitzvot. Nirtam lechaim. Alors, il est signé, ça veut dire pour la vie. On l'a signé pour la vie. C'est-à-dire pour l'année prochaine, il va vivre. Mishenimtsa racha, celui qui racha le soir de Rosh Hashanah, c'est-à-dire que quand on fait les comptes, il a une majorité de averot. Alors, on a dit nirtam lemita. Lui, il est condamné à mort. D'accord ? Et si vous allez me dire, mais j'en ai vu beaucoup qui ne sont pas morts. Il y a plusieurs façons de mourir. Il n'est pas obligé de mourir biologiquement. Après, c'est marqué Vea Benoni, et celui qui est moyen, donc on a dit c'est celui qui a moitié mitzvot, moitié averot. Tolinoto, Adiom Akipurim, on le fait, on dirait littéralement, pendre en l'air jusqu'à Yom Akipur, ça veut dire son jugement il est sous-tendu jusqu'à Yom Kippour. Ima Satchuva, si fait Teshuva, Nirtam Lechaim, alors il est signé pour la vie. Ve Imlav, et sinon, Nirtam Lemita, alors il est signé pour la mort. Donc on résume. Soit quelqu'un le soir de Rosh Hashanah, il va être condamné à vivre, il sort innocent. Soit quelqu'un, il va être condamné à mort. Soit, on ne peut pas décider le soir même, parce qu'il est 50-50. Donc on va attendre Yom Kippour. Entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a 10 jours. Pendant ces 10 jours, il dit le Rambam, s'il fait tshuva, alors à Yom Kippour, il sera signé pour la vie. S'il ne fait pas tshuva, il sera signé pour la mort. Alors, le problème... Premier problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire ? On a dit, s'il a une majorité de mitzvot ou une majorité d'averot. Ça veut dire quoi majorité ? Dans les comptes, c'est pas majoritaire. C'est, tu as 172 averot, 284 mitzvot, c'est précis. Ça veut dire quoi une majorité ? Deuxième question, le Rambam il a dit, si le Benoni, celui qui est moitié-moitié, si entre Rosh Hashanah et Kippour, il fait Teshuva, alors il est Nirtam Lechaim. Mais le Rambam, il n'aurait pas dû dire ça. Puisqu'on parle de quelqu'un qui est 50-50. Et que la majorité, c'est quoi ? C'est que quand quelqu'un il a une majorité de mitzvot, il est considéré comme tzadik. Et la majorité, c'est combien ? 51-49. Donc si quelqu'un entre Rosh Hashanah et Kippour, il fait une mitzvah, une, il remet les téfilines, il fait le Berkat Amazon, il fait une mitzvah, et ben il passe à 51. Donc, sa teshuva, elle est acceptée. Alors, pourquoi le Rambam, il a dit que s'il a fait teshuva entre Rosh Hashanah et Kippour, alors il est nirtam lechaim, il est signé pour la vie. Il aurait dû dire, s'il a fait n'importe quelle mitzvah, il est nirtam lechaim. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on change de système maintenant? Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre... Vous entendez bien là-haut? Oui, bon. C'est marqué dans le Midrash. En fait, il y a deux Midrash incroyables. Deux Midrashim. Amra Knesset Israël Lifna Kadosh Bokhu. Elle a dit l'assemblée d'Israël devant Hachem. Ribono Shel Olam, maître du monde. Shelcha ou. Alors si on traduit littéralement, ça veut dire ça t'appartient, c'est à toi. Achivez-nous. Alors fais-nous revenir, fais-nous faire tes chouvas. Le peuple d'Israël, il dit à Hachem, fais-nous faire tes chouvas. Amar la haine, il leur dit, c'est-à-dire Hachem, il leur répond. Shelachem ou. C'est à vous. Chez Nehema, chouvou elai, va chouva alechem. Venez, revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Ça veut dire que Jouhou, il dit aux hommes, c'est à vous de faire tes chouva. Amra le fanav, alors elle a dit l'assemblée d'Israël devant Hachem, ribono shel olam, shel chaou, maître du monde, c'est à toi. Chez Nehema, chouvenou elokai ishenou. Ça veut dire, ramène-nous le Dieu de notre délivrance. Qu'est-ce qui marque dans le Midrash ici? Il y a une discussion entre le peuple d'Israël et Hachem. Hachem, il dit, et le Bnei Israël, ils disent à Hachem, fais-nous faire tes chouvas. Ça veut dire quoi? Ben, ramène-nous vers toi. les Bnei Israël, Hachem, il répond, non, c'est à vous de faire teshuva. Mais c'est évident. Pourquoi vous croyez qu'Hachem, il a besoin de faire teshuva, lui? C'est celui qui a raison, celui qui a tort, qui revient normalement. Je ne parle pas dans les couples, ça c'est souvent l'inverse. Mais bon, oui. Qui c'est qui doit revenir? C'est à l'homme qui doit revenir vers Hachem. Après, il y a un autre midrash dans Tehilim, c'est marqué, Amrou, Bene Korach, ils ont dit les enfants de Korach. Admatai ata omer shuvu banim shuvevim. Jusqu'à quand tu vas dire, toi Hachem, shuvu banim shuvevim, c'est-à-dire revenez mes enfants. Israël omrim lecha, les bnei Israël te disent, shuv ata betrila, toi reviens le premier. Shenemar shuva Hachem admatai, parce que c'est marqué, reviens Hachem jusqu'à quand? Sous-entendu, jusqu'à quand Hachem tu vas tarder à revenir? Quoi, à revenir à faire tes shuvah? Veata omer, et toi tu dis Hachem, lo, non. Qui est là, Shuva Israël Bitrila. Vous revenez d'abord. D'abord, les Bnei Israël, ils reviennent vers Hachem. Alors, regardez ce qu'il dit le Midrash. Lo atata shuv le'atzmecha, velo anu nashuv le'atzmenu. Ni toi, tu vas revenir vers toi, ni nous, on va revenir vers nous. Et là, shnenu ke'echad. On va revenir les deux ensemble. C'est surréaliste. Shenema, pourquoi? Parce que c'est marqué Shuvenu et Elokei Shainu. Alors, c'est quoi ce dialogue-là? Les Bnei Israël doivent faire teshuvah, Hachem doit faire teshuvah. Et puis, ça veut dire quoi la teshuvah d'Hachem? Ça ne veut rien dire. Bon, ou alors si on dit dans le langage du Midrash, c'est pas que Hachem doit faire teshuvah, c'est que Hachem doit nous faire teshuvah. Je ne compte pas pour les Averot, on demande son aide. On ne demande pas. Et pour les mitzvot, on veut qu'il nous aide. C'est pas normal. Et pourtant, c'est marqué dans la Gemara, dans Kiddushin d'Aflamé d'Abou de Bet. Yitrochel Adam mitgaber becholiom. Le yetzerara de l'homme, le mauvais penchant de l'homme, il se renforce tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, il se renforce. Ve il malé akadosh baruch ozro eno yacholo. Et si ça n'était pas l'aide d'Hachem, un homme ne peut pas lutter contre son yetzerara. Donc ici, c'est marqué clairement dans la Gemara que Hachem aide l'homme à lutter contre le yetzerara. Et un homme ne peut pas s'en sortir sans Hachem. Donc on voit qu'Hachem il aide. Alors le problème il est de savoir quelle est la part d'Hachem et quelle est la part de l'homme. Qu'est-ce qu'il doit faire l'homme? Si tu dis qu'Hachem il lui fait faire teshuvah, il lui fait rien, il dit moi j'attends. Il y a beaucoup de gens comme ça, comme dans la vie. Quand quelqu'un emprunte de l'argent, il sait qu'il doit le rendre, c'est très bien. Mais il attend. Maintenant il t'a promis, il t'a dit le 30 du mois, je te jure sur la tête de ta mère qu'elle meurt à l'instant, je te rends l'argent. Tu n'oses plus prêter d'argent, tellement de fois ta mère elle est morte. Ouais. Il t'a promis le 30. 30, 31, 32, 33. Il ne rend pas. Tu l'appelles, tu le rappelles, tu laisses des messages. Il t'envoie une lettre recommandée. Attention, il te dit c'est du harcèlement. Bientôt il va t'attaquer en justice. D'accord. Et il paye. Il paye, bon Hachem, on parle des gens sérieux, il paye. Mais pour payer, c'est de la folie. C'est de la folie. On dirait que tu apprécies une cigarette pour avoir du jus. C'est de la folie. Et c'est comme ça. Ça veut dire qu'il attend que la dette, elle l'oblige à payer. Mais il va payer. Pareil dans la vie. Il y a des gens, ils ont une dette à payer à la vie. Par exemple, ils doivent se conduire comme un homme, comme une femme, comme une mère, comme un père. Ils ont une dette à payer. Ils ne veulent pas payer. Ils attendent que la vie les oblige à payer leurs dettes. Un juge, un divorce, une crise, une tentative de suicide d'un enfant. Ça t'oblige à payer ta dette de père ou ta dette de mère ou ta dette d'enfant. On va savoir. Il faut que ton père il soit malade et que d'un seul coup tu te retrouves à l'hôpital et qu'il te regarde dans les yeux et il dit pourquoi tu m'as jamais parlé. Et... C'est-à-dire que tu t'es mis dans un presse-conscience. Et t'as attendu le dernier moment et que la vie elle t'appuie sur la tête jusqu'à ce que tu sors de ta bouche ce que t'étais censé sortir naturellement. Je t'aime mon fils, je t'aime mon père, on est bien, on a vécu des choses extraordinaires. Parle normalement. Un bouchon d'acier. Alors exactement pareil. La teshuva, c'est un réflexe naturel chez les juifs. C'est naturel la teshuva, il n'y a pas plus naturel. Parce que c'est quoi la teshuva? La avera, c'est la distance que tu as pris avec Hachem. Et la teshuva, c'est de raccourcir cette distance. Donc c'est normal. C'est normal. Celui-là, il a vécu 10 ans en Israël. Maintenant, il en a marre, il va à Stockholm. Mais au bout de 8 ans, 10 ans, il dit, il faut que je retourne en Israël. Celui-là, il est né à la Goulette. Il a quitté la Goulette, il s'est installé à Los Angeles, il a fait 9 ans d'orthophonie pour enlever son accent. Mais n'empêche que sa société, elle s'appelle Les Boulettes. Il a quelque chose, il n'arrive pas à quitter. Il ne peut pas, c'est impossible. Comment il s'appelle sa fille? Damhout. Damhout pour une fille en Angleterre, en Amérique, ça peut passer. Tu vois. Il s'est resté en lui. Ah, pourtant, tu dis, il a quitté le pays, il ne veut plus le voir, il en a marre. C'est faux. Chacun, il est ce qu'il est. Alors, un homme juif, il est proche d'Hachem. Alors maintenant, il s'éloigne. Il va revenir. Il va revenir. C'est une question de temps, c'est une question d'ambiance, c'est une question de disponibilité, des fois. Mais il va revenir. Donc, c'est un état naturel. Alors, pourquoi, pour une chose aussi naturelle que le retour vers Hachem, on est obligé d'avoir des pressions? Et quelles pressions? Donc, Hachem, il va t'aider à faire tes chouvas. Des fois, il va t'aider dans le bon sens, des fois, il va t'aider dans le mauvais sens. Ouais. Une fois, quelqu'un, il a eu des graves problèmes. Il m'a dit, tu sais, si j'avais pas fait tes chouvas, j'aurais jamais pu supporter tous ces problèmes. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais s'il avait pas fait tes chouvas, il aurait jamais eu de problème. Parce que celui qui est dans la Avera, dans la faute, et qui est bien dedans. Ouais. Qui est bien. Il est bien dans la Avera, il est adapté, il est à 100%. Il est pourri par là, il magouille par là, il embrouille par là, il trompe sa femme, il trompe, il travaille. Il est pourri. Il est bien dedans. Il va mourir dedans. C'est normal. Est-ce que vous me suivez? Il va crever dans la Avera. Et on va le laisser mourir tranquille. Alors, dans la Avera, il a aussi quelques avantages. On va lui payer dans ce monde-ci, parce qu'il n'a pas de Olam Haba. On va lui payer, il va avoir la bracha, il va avoir le magasin qui s'allume quand on passe devant, il va avoir la 735, il va avoir des avantages qui existent, qui sont liés à la Avera. C'est normal, parce qu'il n'y a pas de monde futur. Hachem, il t'aménage un cercueil, 150 chevaux, d'accord. Mais c'est la personne. Non, il y en a qui croient que c'est organisé, c'est tout à fait... Alors, mais si quelqu'un maintenant il fait teshuva, il change de circuit maintenant. Il dit je veux plus l'embrouille, je veux plus le baratin, je veux le vrai. Donc, de la même manière que quand tu voles et que tu fais teshuva, il faut rendre l'argent volé. Et bien, quand tu fais des avérotes, tu as le droit à certains avantages en nature, puisque tu es un homme matériel, donc on te donne de la matière. Maintenant que toi tu dis non, je voudrais revenir à l'antimatière, Hachem dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous les avantages en nature que nous avons octroyés à ton corps, puisque ton âme elle est. Il dit, il faut les rendre. Comment tu les rends? Ou là, un dépôt de bilan, ou là, tu plantes une voiture, ou tous les bijoux, ils partent. Comme ça. C'est comme ça. C'est une société italienne qui a été créée il y a une centaine d'années, qui s'appelle Caparra. Ouais. Le jour du mariage de ta fille, tu vas avec toute la famille, vous partez à la choupa, tu reviens, la maison a été visitée, qu'est-ce qu'ils ont pris des bijoux de ta femme? Combien? Caparra. C'est comme ça. C'est pas grave, un juif il doit savoir que des fois il faut payer. Combien de fois des gens après une naissance ils m'ont dit, vous savez, dès la naissance j'ai eu un coup dur. J'ai dit, le coup dur il était sur ta tête, il était sur le bébé, il était sur ta femme. Maintenant il a caparé, il est parti dans autre chose. T'as arraché une aile de la voiture, c'est mieux qu'un accouchement qui se passe mal. C'est comme ça la vie. Il faut savoir, ça fait partie de la vie d'un juif, c'est comme ça. Parce qu'il y a toujours du bien et du mal, et quand, on fait pas que du bien et du mal, donc quand on reçoit du bien, il y a un petit prix à payer. Ah, t'es baba salé, t'as une question, je suis d'accord. Mais comme ce sont des gens assez rares, donc les autres, ils n'ont pas de questions. Si c'est comme ça, on dit dans la teshuva, il y a la part de l'homme, tu dois revenir, tu dois te remettre en cause. Et puis il y a la part d'Hachem, Hachem il va t'aider. Alors il dit le Midrash, en fait il y a trois niveaux, trois catégories de personnes qui vont s'adresser à la teshuva. Il dit le premier c'est quoi? C'est l'homme qui fait entièrement tout ce qu'il a à faire. C'est-à-dire, il s'adresse à Hachem en adulte. Il a compris. Il a exagéré, il a fait des bêtises. Maintenant, il a compris. Il lève les bras, il dit à Hachem, d'accord, c'est bon, c'est bon. Il arrête de faire le malin. Monsieur, il a tout compris. Monsieur, il est fort. Monsieur, il se prend pour Dieu. Il a compris. Il y a un seul Dieu. C'est lui qui mérite. La Torah, elle est divine. Il me l'a donné. Il me l'a ordonné. Et moi, je suis un serviteur. D'accord. Il a un rapport normal avec Dieu. Il se prend pas pour Dieu. D'accord. Donc, ça, c'est quoi? C'est quand Akjbokhou, il a dit, Shuvu Elai va Shuvu Alechem. Revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Ça veut dire que l'homme, déjà, il fait la majorité du travail. Il y a une deuxième catégorie, c'est quoi? C'est celui qui n'a pas la force de se réveiller lui-même. C'est ce qu'on a dit. C'est celui qui sait qu'il a une dette à payer, mais il attend qu'on insiste un peu. Des fois lourdement. Alors il attend. C'est pour ça que vous verrez toujours que tout le monde va s'apitoyer et dire oui, le pauvre, qu'est-ce qui lui arrive, et nanana. Mais lui-même, au fond, il sait pourquoi. Je sais pas si vous. Chacun, il sait pourquoi. Toi, tu vois les huissiers qui rentrent chez ton voisin. Tu dis, oh, comment les huissiers, ils rentrent chez le voisin? Mais lui, il sait pourquoi. Il a reçu une lettre, une deuxième lettre. Il ne savait pas pourquoi. Alors, il ne savait pas pourquoi. Il avait, alors, on lui a envoyé commandement. Je vous traduis en hébreu. Mitzvah. Premier commandement, deuxième commandement. Quand il arrive au dixième commandement, il... Après, il reçoit la lettre de l'huissier, Monsieur Sinaï. Il se pose des questions. Vous comprenez? Akadosh Baruch Hu, il te montre. Ah, toi pour l'autre, tu comprends pas. Tu dis le pauvre, il a les huissiers. Mais lui, il comprend. Exactement pareil. Quand on a les huissiers dans sa vie, nous, on sait. Qui c'est le Nia qui dit je comprends pas. Je fais que du bien, je suis un tzaddik, je fais toutes les mitzvot et qu'est-ce qui m'arrive? Imagine. Réfléchis. Ça, c'est la deuxième catégorie. Il n'a pas la force de se réveiller. Alors, il demande à Kadosh Baruch Hu, achivez-nous, ramène-nous. Troisième niveau, c'est quoi? C'est celui qui n'a aucune force, aucune notion. C'est comme des gens, des fois, ils me disent, mais j'ai un cousin. Il y a des gens comme ça, pff, complètement perdus. Dilués dans la masse. Des excroissances entre Auchan et Leclerc. Vous voyez, des espèces de sous-produits de consommation courante. C'est-à-dire... Au fond, ils sont juifs, au fond, mais c'est presque de la spéléologie. Ouais, il faut... C'est comme si tu vas dans le Vercors, tu rentres dans une caverne, tu descends à 1772 mètres de profondeur, tu trouves par terre un bout de tissu, et quand tu le déplies, tu vois que c'est une kippa. Il y a des juifs comme ça. Très loin. Mais Cohen, c'est un nom juif? Non, c'est un nom d'emprunt que nous avons pris pendant la guerre. Vous auriez pu mieux choisir. D'accord. Alors... Des gens qui refusent leur judéité. Mais au fond, ils savent que la Torah, elle a raison. Alors ici, c'est marqué, celui-là, il n'a même pas la force. Mais il a quand même le souci, il a quand même l'angoisse. Il voudrait que ses enfants, ils se marient dans la communauté. Et lui, il espère bien un jour qu'il va se réveiller. Il a au fond. Mais toute la journée, il dit à ses copains, c'est des bêtises. C'est l'opium du peuple, la Torah, c'est... D'accord. Mais au fond de lui, il sait. D'accord. Alors celui-là... handicapé à 100%, c'est Akadosh Baruch Hu qui est obligé de le prendre en main et de s'occuper de lui entièrement. Ça c'est quoi? Chez Nenu Kehad, l'homme il va juste prier, peut-être il aura juste le souci et Akadosh Baruch Hu il va s'occuper de lui. C'est le troisième niveau. Maintenant pour bien comprendre ces trois niveaux et chacun d'entre nous dans lequel il va se reconnaître, il faut d'abord comprendre comment elle marche la Teshuvah. Qu'est-ce que c'est la Teshuvah? C'est que la Teshuvah c'est une mitzvah de la Torah. Une fois quelqu'un il m'a dit mais moi je vais faire des averot, sinon je vais rater une mitzvah. La mitzvah de Teshuvah. Te force pas trop. Parce qu'il y a aussi une mitzvah de divorcer aussi. Mais pas dans tous les cas. Faut pas se forcer non plus. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit grave si je divorce. C'est une mitzvah quand même. Hein? Je lui dis il y a aussi une mitzvah d'exécuter les condamnés à mort. Hein? Tu veux pas que. Bon. Alors, c'est quoi Ikaré Teshuvah? Les bases de la Teshuvah, il y a trois parties dans la Teshuvah. Première partie, c'est quoi? C'est Azivat Achet, le fait d'abandonner la faute. Deuxième niveau, c'est quoi? Kabbalah Le'atid, le fait de prendre sur soi dans le futur. Et troisième niveau, c'est Charata, le regret. C'est les trois parties de la mitzvah de Teshuvah. Le premier niveau, c'est quoi? C'est Azivat Achet. Alors là, c'est très bizarre. On parle de quelqu'un qui veut faire Teshuvah, d'accord? La Torah lui dit, attention, si tu veux faire tes chouvas, il faut que tu arrêtes de fauter. Ben c'est évident. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire? Qu'une des conditions de la faute, de la teshuvah, c'est d'arrêter de fauter. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui font teshuvah, mais qui continuent à fauter. Je ne sais pas si vous... C'est comme une voiture. Quand tu freines en temps de pluie, et continue à rouler. Mais il y a des gens dans la religion, ils font de l'aquaplaning. Il dit, j'ai arrêté, chazé shalom. Christine, alors, t'as arrêté ou t'as pas arrêté? Tu manges cachère? Ouais, mais tu comprends, des fois, j'ai une réunion de travail. Tu manges pas cachère? Non, je mange cachère, mais des fois, il y a une réunion de travail. Tu manges pas cachère? Non, mais j'ai... Tu fais Shabbat?
Ah.
Bien sûr, tous les vendredis soirs, je prends la voiture et je vais faire le kiddush à ma mère. Mais comment tu fais pour faire kiddush après que tu as pris la voiture? C'est impossible. Et Shabbat matin, tu ne les vois pas ceux-là devant la synagogue? Ils gardent la voiture. Véchameru béni Israël est un Shabbat. Narsot est un Shabbat. Fedorotam berit olam. Tu ne sens pas qu'ils sont un peu détraqués? Il arrête la voiture, il te dit, excusez-moi, la synagogue c'est où? Je dis, baisse la musique, je n'entends pas ce que tu racontes. Donc, il a fait teshuvah, mais il n'a pas abandonné la faute. Alors la Gemara te dit non. La première halakha dans la teshuvah, c'est quoi? C'est d'arrêter de fauter. Non, ça veut dire quoi arrêter de fauter? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu n'as plus de lien avec la chose. Pour ça qu'on a dit un langage, azivat achet. C'est quoi la azov? La azov, c'est abandonner. Abandonner. Quand tu as une chemise et que tu la jettes, tu ne vas pas aller dans deux semaines faire toutes les poubelles de France pour essayer de la retrouver. Tu l'abandonnes. Quand tu abandonnes la faute, tu l'abandonnes. Tu ne veux plus entendre parler d'elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle quitte ton cœur, elle quitte ton corps, elle quitte ton cœur, elle s'en va de toi. Elle n'est plus en toi. C'est ça s'appelle azivat achet. Donc ce n'est pas simplement le fait que tu t'arrêtes physiquement de fauter, ça c'est évident, d'accord? Mais c'est aussi que toi-même, tu échappes entièrement à cette chose-là, à cet acte-là, parce qu'il ne t'appartient plus. Deuxième niveau, c'est quoi? On a dit, c'est Kabbalah le'atid. C'est le fait que la personne, elle prend sur elle dans le futur. C'est un engagement, c'est une résolution, de dire à partir de maintenant, j'arrête. Pour plus tard, pas pour aujourd'hui, pour plus tard. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la personne, elle doit se projeter. Elle doit être capable d'envisager dans l'avenir. Pourquoi? Parce que tout le monde sait très bien que les résolutions qui n'ont pas de base dans le présent et dans l'avenir n'ont aucune incidence. Un joueur qui joue, il te dit, sa femme, elle lui a amené la lettre d'avocat, il dit, je te promets, j'arrête. C'est des mots. Un buveur, j'arrête de boire. Oui. Une femme, elle arrête de tromper son mari. Elle voit combien? C'est quoi s'arrêter? Ça veut dire que tu dois donner des preuves, toi, à l'autre, que ça ne va pas se reproduire. Donc toi, t'as amené le papier, voilà, je suis interdit au casino d'Anguin, voilà. J'ai plus le droit de rentrer au cercle de jeu des barbeaux des babous, là, au premier étage, au sentier. Là, j'ai plus le droit, voilà. Voilà. Tu as pris des engagements pour montrer que dans ton futur, la faute n'existe pas. Tu t'es donné les moyens, c'est ça qui va convaincre l'autre. Quand tu empruntes de l'argent, tu donnes des chèques, une échéance, quelque chose. Alors si, pour convaincre l'autre, tu as besoin d'éléments, alors dans la teshuvah, tu dois te convaincre toi-même, tu dois convaincre Hachem. Pour savoir que ce n'est pas rien que des paroles. Parce que c'est, tous les ans, c'est les mêmes choses. C'est vrai. Tu dis, bon, si on écrivait ce qu'on a pris l'année dernière, on remarquerait que c'est souvent la même chose que cette année. Et pourquoi ça n'évolue pas? Parce que c'est connu, c'est une chanson de Dalida, que des paroles. Tu veux que ça soit un engagement? Il faut que tu mettes des choses claires. Comment tu fais? Il faut que tu aménages ton futur. Tu dis, mais on est au présent maintenant. Il faut que tu aménages ton futur. Pour qu'au moment où ton futur il deviendra en présent, tu plongeras pas, tu craqueras pas. Et ça, chacun il se connaît. Il dit le Rav de Brisque, à part le Shulchan Aruch, à part les millions et les millions de halakhot et de lois qu'il y a déjà dans la Torah et dans le Shulchan Aruch, il faut que tu te fasses ton Shulchan Aruch personnel à toi. Parce que dans les mitzvot, comme dans les averot, chacun il se connaît. Celui-là, il sait qu'il n'arrive pas à se lever le matin. Donc lui, il doit marquer dans le Shulchan Aruch que tous les matins, il doit payer un type pour lui mettre un seau d'eau sur la figure. C'est un Shulchan Aruch personnel. Lui, celui-là, il sait qu'il a une tendance, une approche culturelle comme ça du décolleté. Donc il est tout le temps à la recherche perpétuelle de nouvelles proies visuelles. D'accord? Il y a des gens comme ça qui se promènent avec de zoom numérique. Et ils filment toute la journée, et le soir, ils font des mises en scène un peu. Bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Il dit, j'arrive pas, moi, dès que je sors dans la rue, je suis en récolte permanente. Donc lui, il est obligé de se faire un Shulchan Aruch spécialement pour lui. Lui, par exemple, d'enlever les lunettes. Il sort dans la rue comme ça. Il voit, on ne parle pas qu'il voit rien, il voit, il ne rentre pas dans les murs, mais il enlève les lunettes. Il ne peut pas. Dès qu'il distingue, il marche dans la rue, dès qu'il distingue la différence entre un homme et une femme, aujourd'hui c'est difficile, mais dès qu'il y arrive, il doit tourner la tête comme ça, il fait comme ça. Il fait comme ça. Il a un Shulchan Aruch pour lui. Oui, c'est pareil. Il sait qu'il est un embrouilleur. Il doit se faire un Shulchan Aruch spécialement dans les affaires d'argent. Tout doit être marqué, tout doit être fixé, tout doit être truc. Parce qu'il sait. Il a un Yetzirah de. Tu sais, il y a des gens qui réécrivent le passé. C'est un menteur. Mais pas un menteur méchant. Moi j'ai dit ça, Hazé Shalom, j'ai jamais dit ça. Lui il doit mettre par écrit. Donc il va aménager des lois pour pouvoir accomplir les lois. C'est ça, Kabbalah Léatine. Ça veut dire que je vais aménager mon futur pour que mon futur ne soit pas comme mon présent. Maintenant, s'il n'aménage pas son futur, je vous garantis qu'il va refaire les mêmes bêtises. Les mêmes, idem. Il dit, mais pourquoi ? Il a pris sur lui, il a pris une ferme résolution. Il aurait dû la prendre un peu plus ferme dans la figure. Ouais. Troisième niveau, c'est quoi ? Harata. C'est quoi Harata ? Harata, c'est le regret. Alors, il y a une mitzvah de regretter la faute. Il y a des gens, ils vont te dire, vous savez, Rav, j'ai beaucoup de mal à regretter. Il me dit, pourquoi ? Je dis, parce que c'était trop. Mais waouh ! Il dit, j'ai du mal. Comment tu fais pour regretter ? Comment tu fais pour regretter une chose que tu as kiffée ? C'est très dur. Il dit, je sais que c'est pas bien, hein, mais c'est bon. Comment tu vas regretter ? Alors, la seule manière de regretter, c'est d'avoir un point de référence. Tu mets la Torah d'un côté, tu mets la faute de l'autre, tu as un point de référence. Il y a des gens... Ils n'ont pas assez de connaissances de la Torah pour comprendre le contrepoids de la Avera. Alors ils sont obligés de se fabriquer des contrepoids, on va dire, artificiels. Une fois, je me rappelle, j'étais à une choupa. Alors vous savez, avant la choupa, il faut faire teshuva. Parce que c'est marqué que quand quelqu'un passe sous la choupa, toutes ses Averotes sont effacées. Ça sera pour lui, d'accord ? Mais c'est seulement s'il a fait teshuva. S'il y va genre New York, lui, des fois il peut doubler la mise. Sarah, oui. Non, je dis ça parce que les gens, les pauvres, ils vont à la choupa. Hachem, il leur efface les fautes. Le soir, ils font un mariage mélangé. Ils appellent ça les mixtes. Et ils font le plein. Parce que les 300 personnes sont venues pour qui ? Pour toi. Donc les hommes les femmes qui dansent devant les hommes devant les hommes qui font. Ils font pas de brachot, ils font des brachot devant des femmes découvertes. Ils font la bise, ils se touchent, à part les gens qui vont sortir ensemble, qui vont tremper leur mari. Il y a de tout dans les marmisvot et les mariages. D'accord. Donc, toi, l'après-midi, tu as vidé ton compteur. Le soir, tu fais le plein. Je ne sais pas si vous. Et si vous allez me dire, ouais, mais vous comprenez, avec la famille, c'est pas évident. C'est ton mariage. C'est ta kedusha. C'est ta sainteté. C'est ton avenir. Tu te débrouilles. De toute façon, eux, que ça leur change. Hier, ils étaient au palace, demain, ils sont au palladium. Que c'est leur chance si ce soir, ils sont à la synagogue. Ils vont dire, ah, elle est spéciale, cette synagogue. Cette boîte de nuit. Non, parce qu'aujourd'hui, les mariages, c'est comme des boîtes de nuit. Alors, ce mariage-là, il est un peu moins boîte de nuit. Pourquoi tu leur payes ? De toute façon, ils sont prêts à payer. Pourquoi tu leur fais gratuit ? Il faudrait qu'un type, il fasse ça un jour. Il envoie dans la carte de mariage, à tous les invités, je vous offre une place gratuite au palladium le lendemain de mon mariage. Mais le soir de mon mariage, j'ai un invité de marque qui s'appelle la présence divine, et je suis obligé de respecter certaines règles basiques. Par exemple, la danse du ventre n'est pas recommandée. Vous tromperez votre femme un autre soir. On peut faire une liste comme ça, d'accord. Alors maintenant, alors ce khatan-là, je lui dis, tu sais, avant la choupa, il faut regretter. Il me dit, comment je vais regretter ? Il me dit, comment je vais regretter ? Je dis, je vais te donner un truc. C'est méchant, c'est très violent, mais je vous le donne à vous parce qu'on est des amis. Je lui dis, tu vois, tout le monde a la photo du mariage de ses parents. On a tous. Je ne sais pas en quelle année ils sont mariés. Bon, pour vous, ils sont mariés en 74, mais bon, moi, ils sont mariés en 50. Bon, alors, donc, vous voyez votre papa et votre maman sur la photo, en train de se regarder comme ça. Vous savez, la photo niade qu'ils font toujours. Et vous regardez les yeux de votre père, et vous regardez les yeux de votre mère, et vous n'êtes pas né, vous, a priori, sauf exception, mais a priori, vous n'êtes pas né encore, sur la photo de mariage de vos parents, ouais. Et vous vous dites, qu'est-ce qu'ils avaient, mes parents, comme ambition, sur les enfants qu'ils allaient avoir? Ils sont mariés dans la pureté, ils sont mariés dans l'ambition, avec de l'amour. Qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête comme enfant qu'ils allaient avoir? Regardez là, regardez leur regard, comment ils sont beaux, comment ils sont purs. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Cette petite différence, normalement, chez un homme normal, quelqu'un qui n'a pas brûlé tous ses neurones de sensibilité, elle doit provoquer un petit phénomène de remontée mécanique, ce qu'on appelle de Ramba. Ouais. Et c'est, ça, c'est une base de teshuva. Parce que si tu te dis, si déjà mes parents, tous qui sont investis ici, savaient le produit pourri que j'ai produit, alors Hachem, avec tout ce qu'il a investi, ouais, c'est une base. Ici, c'est pareil. Harata, ça veut dire que la personne, elle doit regretter. Alors maintenant, des fois, c'est dur de regretter la avéra elle-même, la faute elle-même. Alors des fois, il faut regretter les conséquences de la faute. Par exemple, quelqu'un, il fait une faute, une petite faute, 10 minutes, il s'est trompé d'étage, d'accord? Il habite au troisième, il s'arrête au second, il ouvre la porte, la voisine, elle a oublié de s'habiller, il a craqué, il s'est dit, ça m'arrivera qu'une fois, il a fauté. 10 minutes, montre en main, c'est une expéditrice. Il sort de là, il resserre la cravate, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il monte le dernier étage à pied, il a sa femme qui l'attend, ses quatre enfants, ils sont à l'école juive, lui-même il est responsable d'une communauté. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, ça lui a pris 10 minutes. Pendant 20 ans, à chaque Yom Kippour, il va avoir la Ramma. À chaque fois qu'il va avoir une crasse dans sa vie, il va penser que c'est à cause de ça. Ses enfants, ils auront des problèmes, il va se dire que c'est à cause de ça. Il va vivre avec la culpabilité de folie. Un jour, sa femme, elle va le tromper, il va dire c'est de ma faute parce que j'ai fait ça. Pour 10 minutes, il va payer 20 ans. Si quelqu'un, il fait le compte de ce que lui rapporte la avéra, la faute, et ce que lui coûte la avéra, c'est le contraire d'un médicament. Un médicament, il est amer. Et après, il vous soigne. La avéra, elle est douce, mais après, elle vous rend malade. Et combien d'années? Et vous avez vu l'efficacité de la avéra. Il devrait la mettre dans les médicaments remboursés. Ouais, tellement ça marche bien. Comment quelqu'un, après, il est cassé? Donc, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'en vérité, un acte, c'est pas un point dans la vie. Un acte, c'est une ligne, c'est une droite. Cette droite, elle a un passé, elle a un présent et elle a un futur. Ça veut dire que quand moi, je fais une avéra, je viens de quelque part, je fais quelque chose, et ça entraîne des choses. Maintenant, les imbéciles, c'est les gens qui vivent au présent. Bon, j'ai fait ça, d'accord. Par exemple, tu as des gens, ils sont coléreux, ils gueulent, ils cassent tout, après ils disent, bon, ça va, il ne faut pas être rancunier. Ils vivent au présent, ils ne se rendent pas compte. Tout ce que tu fais, ça vient de quelque part. Tout ce que tu fais, ça fait une marque au présent, et tout ce que tu fais, ça a une conséquence au futur. Donc maintenant, c'est obligé que ta teshuva, elle soit aussi en trois dimensions. Parce que si tu es arrivé un jour à faire cette faute-là, c'est que quelque part, toi, tu es rentré dans un circuit qui t'a amené à cette faute. Tu as eu de la négligence, tu as pourri ta tête, tu as pourri ton esprit, tu as enlevé la Torah de ta vie, tu as enlevé la Kedusha de ta vie. Alors petit à petit, tu es rentré dans une logique. Aujourd'hui, tu mets une jupe un peu plus courte. Aujourd'hui, tu mets une fente, on voit ton soutien-gorge. Pour une jupe, c'est très rare. D'accord? Aujourd'hui, tu mets une coiffure qui est excitée. Après, maintenant, tu as une démarche rayeuse de couloir. Alors, après, tu dis, je comprends pas pourquoi Alexandre, au travail, n'arrête pas de me faire des déclarations. Mais là, tu es devenu un phare dans la nuit. C'est pas un rouge à lèvres, c'est un gyrophare. Arrête. Un peu de mesure. C'est pareil. Toi, tu es marié, tu as des enfants. Alors, il y a certaines discussions que tu ne dois pas avoir avec les collègues de travail. Non, mais ça va, on est cool, tout le monde rigole, tout le monde pas. Non, t'es marié. Ah, t'es mignon, comment ça se passe? T'es seul en ce moment? Non, qu'est-ce que tu rentres là-dedans, toi? Tu fais une brèche, tu comprends pas. Excuse-moi, j'ai du travail, faut que j'aille ranger la photocopie. Fais le brel. T'es marié, fais le brel. Sinon, je fais pas le brel. Non, je suis pas super religieux. Moi, je suis cool, je vois pas le mal, je serre la main, je fais la bise. Aujourd'hui, tu serres la main, tu fais la bise, demain, tu serres autre chose. C'est comme ça. Et tu vois pas le mal arriver, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est impossible. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Ce qui t'est arrivé, mon frère, c'est très simple. C'est que tu étais sur une pente douce. Or, les enfants, depuis qu'ils sont petits, pourquoi on les emmène au parc, les enfants? Vous savez pourquoi on les emmène au parc? Pourquoi? À cause des toboggans. C'est bien, mon fils. Tu vois, tu étais assis en haut, maintenant, tu as le derrière par terre. Alors? Exactement pareil dans la vie. La vie, ça glisse. Donc, si tu es là, c'est que tu viens de quelque part. Ouais. Et si tu es là, c'est que ça va t'emmener quelque part. Donc, si tu ne veux pas que ton futur soit la suite de ton présent, tu as intérêt à aménager ton futur. Kabbalah l'Atid. Je vais bien réfléchir. Mais d'abord, il faut que tu saches d'où ça vient. Donc, tu vas faire une introspection, tu vas faire une analyse en profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie que je suis arrivé à une chose pareille? Et si vous allez me dire, oh, mais c'est pas évident, je crois pas que tu le fais avec ton fils. Tu découvres que ton fils, il vole dans les poches de ses camarades à l'école. Qu'est-ce que tu fais? Tu le fracasses? Tu fabriques un poster avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Tu t'assois, tu dis, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Tu manques de quelque chose? T'as pas confiance en toi? Les enfants, ils t'ont pris? Il y a quelqu'un qui te fait du racket? Tu trouves, tu cherches, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Alors, si tu cherches dans la tête de ton fils, qui est un futur adulte, donc toi, tu es un adulte qui était un enfant, parce que quand t'as fauté, t'es un enfant. La preuve, c'est que tu t'en rends compte. Or, c'est quoi la prise de conscience? Sinon, un stade de maturité. Donc, en te rendant compte que tu fautes, t'es devenu l'adulte dont le corps d'enfant a fauté. Donc maintenant, il faut que tu parles avec l'enfant qui est en toi pour lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas analyser pour savoir l'origine du problème. Ça, c'est quoi, ça? On a dit, c'est la harata, c'est ça le regret. Ça veut dire que tu vas aller chercher la source du problème en toi. Et des fois, ça peut être n'importe quoi. Si je vous dis que 95% des gens fautent à cause du regard des autres. Ils croient en Dieu, la Torah a raison, le judaïsme, c'est une mise extraordinaire. Mais c'est pas évident, on est dans un milieu, j'ai tous mes copains, mes copines, elles me regardent, des trucs. Oh, tu vois pas comment. Alors, je faute. Rien que pour le regard des autres. Vous savez, j'habite un quartier, je peux pas trop me permettre. Rien que pour le regard des autres. Après, il y a celui qui faute par habitude. Après, celui qui faute par influence. La télé, tu ne trompes pas ta femme, pourquoi tu ne trompes pas ta femme? Ah, il faut que je la trompe. Par intégrité par rapport à la télé, il faut que je la trompe. D'accord? Donc, il y a plein de causes. Chacun, il va analyser à l'intérieur de lui-même. Où est-ce que la corde, elle a craqué? Mais sachez que si la corde, elle a craqué, c'est parce qu'elle s'est usée doucement. Alors, il faut que tu trouves où est-ce qu'elle frotte la corde. Et qu'est-ce qui l'a fait craquer? Ça, c'est quoi? C'est harata. Tu analyses ton passé. Ensuite, qu'est-ce que tu dois faire? Kabbalah l'Atid. Tu dois bien observer ton présent aujourd'hui pour que la coupure soit totale. Tu n'as plus rien à voir avec ça. Ça, c'est Aziyah Batachet, abandonner la faute. Et ensuite, aménager ton futur pour être certain que tu ne recommenceras pas. Si tu ne remplis pas ces trois conditions, c'est sûr que tu vas recommencer. Si tu n'aménages pas ton futur, ben, tu vas refauter. Si tu ne regrettes pas, c'est-à-dire tu n'enlèves pas la racine de la faute, ben tu vas recommencer. Et si tu n'abandonnes pas entièrement la faute, parce que tu te laisses toujours une petite marge de continuer à fauter en attendant de changer, tu vas refauter. Donc c'est impossible. Exactement pareil que le dentiste. C'est qu'est-ce qu'il fait le dentiste? Il voit une carie. Il creuse. Maintenant, s'il est un petit peu commercial, c'est ce qu'il fait? Je ne le répétais pas. Il laisse un tout petit peu de carie au fond. Il met le pansement. Il met le plombage et il te fixe le prochain rendez-vous. Il sait que tu vas revenir puisqu'il t'a laissé la carie. Mais au fond, exactement pareil. Toi, tu veux changer ou tu ne veux pas changer? Si tu veux changer, il faut aller jusqu'au fond. Tu dis, mais c'est rien ça. C'est ce petit rien qui a été le début de ta faute d'aujourd'hui. Donc pourquoi ce petit rien, ça ne serait pas le début de la prochaine? Et combien de fois j'en ai vu? Rabat Chetri, je vous appelle, qu'est-ce qui se passe? Mon mari m'a trompé. Oh, c'est pas possible. Je dis, écoutez madame, vous avez loué une villa à plusieurs couples sur la côte? Oui. Vous étiez tous au bord de la piscine? Bien sûr. Vous étiez toutes les familles? Oui, les hommes et les femmes? Ah bah oui, nous ne sommes pas très religieux. Et vous étiez en maillot de bain? Ah bah oui, bien sûr, je suis en maillot de bain parce qu'il fait chaud. Vous jouiez entre hommes, etc. Les passes de ballon? Bien sûr, oh, vous avez envie de tricot. Et faites aussi des petits jeux, chacun y porte l'autre sur les épaules. Oui, oui, oui. Des fois, c'est votre mari qui vous porte, bien sûr. Et des fois, c'est l'ami de votre mari. Dites-moi, un mari, un homme qui a une femme sur ses épaules. Quel effet ça lui fait, à votre avis, si vous le comparez avec un sac à dos? Eh bien, mon mari, c'est ma meilleure copine et il a craqué avec elle, il vient de me le dire, il parle de refaire sa vie. Tu mets le bras jusque-là, dedans, pas que tu l'as touché, tu l'as effleuré. Genre, ça porte bonheur, on ne sait jamais. Tu as mis le bras jusque-là et après tu viens, tu dis, je ne sais pas ce qui s'est passé, vous, peut-être. C'est incroyable, c'est un mari inter, un homme sérieux qui a toujours été vraiment... Mais pourquoi ils sont niais, les gens? Mais je ne crois pas. La Torah, elle a donné des lois. Elle a donné des règles. Mais elle parle pour qui? Les chameaux. La Torah, elle te dit, tu ne peux pas regarder une femme, tu ne peux pas l'observer avec attention. Tu ne peux pas lui parler de manière trop proche. Tu ne peux pas t'isoler avec elle, tu ne peux pas la toucher en partie, d'accord? Tu ne peux pas l'embrasser et tu ne peux pas avoir des relations avec elle. Alors regarde un petit peu tout ce qu'elle a fait, la Torah. Et ouais, c'est trop! Toi, tu es cool, toi. Tu vois, tu parles, tu rigoles, des blagues un petit peu, oula, oula. Ouais. Tu touches, on ne sait jamais, des fois qu'elle serait un humanoïde, ouais, tu vérifies. Tu fais la bise, c'est normal, et quand on passe d'un joue à l'autre, oula, ça effleure, oula. Tout ce que je vous dis, c'est sur des témoignages. Hein. Des gens m'ont raconté des trucs, mais moi je rigole. Moi j'ai le téléphone, j'ai pas la télé, mais je rigole plus que vous. Une fois, il y a un type, il m'a dit, ma femme, elle va à la synagogue, le président de la communauté, vous savez, à la fin de la prière, on fait tous la bise, et le président, il lui a fait un bisou appuyé. J'ai dit, c'est quoi un bisou appuyé? Je n'arrive pas à me rendre compte. Il m'a dit, ben, elle a senti que... Je sais pas, ou il insistait, ou il voulait laisser une empreinte, je ne sais pas. Moi, je l'ai dit, il n'a pas mordu, au moins. Non, 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 non. Il m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui ai dit, qu'est-ce que je pense de quoi? Des présidents qui font la bise, ou du fait que vous faites la bise? Par principe. Parce qu'on ne voit rien de mal. On ne voit jamais rien de mal, Rabotaille. On ne voit jamais rien de mal. Et ça, je l'ai appris d'un garagiste. Une fois, j'étais chez un garagiste. Il m'a dit, tu sais, ce genre de voiture, ça bouffe de l'huile, mais de l'huile. Je lui ai dit, mais quel est le problème? Je lui ai dit, de toute façon, le voyant, il s'allume. Et il m'a dit, quand il s'allume, c'est trop tard. Exactement pareil. Quand tu vois ton mari qui rentre, qui est gêné, qui dit, je préfère que tu ne me touches pas, c'est pas le moment de mettre de l'huile. C'est trop tard. Tu dis, mais pourquoi? Exactement pareil. Donc, dans la teshuvah, t'es obligé d'aménager ton futur pour être certain que ça ne se recommencera pas. T'as analysé bien ton passé pour connaître la source et ton présent, il est clair. Tu n'as rien à voir avec ça. Ça, la teshuva. Maintenant, pourquoi est-ce que quelqu'un, il doit tellement regretter? Pourquoi c'est comme ça? Alors, regardez ce qui est marqué. Il dit le Rav Dessler, quand une personne meurt, vous savez que juste après la mort, il y a ce qu'on appelle le kafakela. Bon, vous n'avez pas connu ça, mais bon, c'est quelque chose qui existe. C'est que juste avant que la personne passe en jugement, alors elle subit quelque chose qui est très douloureux, qui s'appelle kafakela. C'est quoi kafakela? C'est marqué dans le Zohar qu'on prend la neshama et on la jette d'un bout à l'autre de l'univers. D'accord? Alors Rav Dessler, il explique. Il dit, c'est pas qu'il y a un ange, il y a deux anges qui jouent au tennis avec la neshama. Non, pas du tout. C'est quoi? C'est que un homme, une femme, quand il meurt avec ses envies. Maintenant, le problème, c'est que dans ce monde-ci, les trois quarts d'entre nous, puisque nous sommes dans une société de consommation, nous passons notre vie à assouvir et à trouver des moyens d'assouvir nos besoins. D'accord? Nous sommes ce qu'on appelle des accro-dépendants à la matière. Celui-là, il faut son petit café, celui-là, il faut sa clope après le déjeuner, celui-là, il faut sa prise de nerfs, celui-là, il faut sa bouffe, celui-là, il a l'habitude de la petite crème, celui-là, il faut de sucre, celui-là. Chacun, il est lié à la matière. Le problème, c'est que dans ce monde-ci, il y a de la matière, mais dans l'autre monde, il n'y en a pas. Imagine un gros fumeur, il reçoit un billet gratuit pour aller 15 jours dans une île des Galapagos, il arrive là-bas, une île déserte, il arrive, l'avion, il repart, il se sent un petit peu, mince, il a oublié ses clopes dans l'avion. Il voit un indigène, Robinson, il lui dit, dis-moi, où est-ce que je peux acheter des clopes? Il dit, ici, il n'y en a pas. Non, mais vous êtes livré une fois par 1000 ans. Une fois par 1000 ans. Exactement pareil. Celui qui est habitué à la matière, dans l'autre monde, il va se sentir un petit peu lésé. Vraiment lésé. Parce qu'il n'y a rien. La Gemara, elle dit, Enbo, lo achila, lo shtia, lo piriavirivia, lo kina, lo sina, lo tacharut. Dans le Olam Haba, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de relation charnelle, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... Tout ce qui est bestial, tout ce qui est une excroissance de l'homme physique, il n'y en a pas. Donc si quelqu'un, il est bien matériel dans ce monde-ci, qu'est-ce qui va arriver là-haut? Vous avez déjà vu un drogué, vous, qui est en phase d'excitation maximum et qu'on enferme dans une salle capitonnée? Vous avez vu ça? Hein? Il veut une dose. S'il est dans la rue, il peut étrangler sa mère pour trouver l'argent. Mais là, il n'y a rien. Il est dans une salle capitonnée avec la drogue qui lui arrache le ventre parce qu'il a besoin de combler sa dose. Eh bien, on est accro-dépendant à la matière. On arrive dans l'autre monde, il n'y a pas de matière. Donc, à l'autre bout de l'univers, il dit Rav Dessler, un homme, il va voir l'objet de son désir. Et il voudra l'attraper. Mais il arrive, il n'y en a pas. Un mirage dans le désert. Il se retourne de l'autre côté, qu'est-ce qu'il voit? L'objet de son désir. Et chacun avec son désir. Celui-là, une hamburger, celui-là, une religieuse, celui-là, religieux, chacun ce qui. D'accord. Et cette souffrance-là, de l'âme, oui, parce que la personne qui est matérielle, elle va essayer, elle va chercher à la combler, c'est ça Kafakela. C'est ça la souffrance de Kafakela. Pourquoi c'est comme ça? C'est simple. Parce qu'à la fin de sa vie, on ne peut pas être autre chose que le résultat de ce qu'on a vécu. Comme dans la vie en général. Par exemple, quelqu'un qui ment, qui ment, qui ment, qui ment, qui ment pendant 10 ans. Après, il dit, j'arrête de mentir. T'es un menteur. Ça prend du temps. Celui-là, c'est un magouilleur. Celui-là, c'est un embrouilleur. Celui-là, c'est... Chacun, il est ce qu'il est. Donc, à la fin de la vie, on est quoi? Maintenant, nous, notre problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas de mémoire. Nous, on dit, oh, mais ça fait longtemps, j'étais jeune, et le temps, il est passé, puis j'ai arrêté avec ça. Bon, j'ai fait autre chose, mais j'ai changé. Écoute, mon frère, chacun d'entre nous est une dafina. C'est une dafina. Vous savez ce que c'est, hein? Une dafina. Chulant. Srina. Vous savez, bon. Dans la dafina, on met beaucoup de choses. Mais en tout cas, dans la dafina, il y a ce que tu as mis dedans. Maintenant, je mets des pommes de terre. C'est bien. Je mets de la viande. Saha. Je mets du pied. C'est mieux. Mais je prends une chambre à air, je l'émince et je la mets dedans. Elle va fondre. Bon, quand même. C'est pas grave, je remets de la viande. Après, je prends de l'herbe des Tuileries, le coin des chiens. Je ramasse toute l'herbe, je la coupe bien, je la mets dans la dafina. Et je remets des pois chiches, et je remets du jus. Après, je prends du pipi de kayak. C'est très rare. Faut aller au Tibet pour en trouver. Je le mets dedans, mais je mets beaucoup de jus, hein. Je rajoute vraiment beaucoup de viande, beaucoup de... Tu vas la manger cette dafina? Tu dis, je préfère pas, tu sais, je suis ballonné. Exactement pareil. Toi, à la fin de ta vie, tu es le résultat de ce que tu as vécu. Donc il y a eu des bons moments, il y a eu des mauvais moments, il y avait des fois avec ton papa et puis des fois avec ton maman. Ben oui, mais c'est cumulé. Alors toi, tu viens, tu dis, mais hier j'ai fait teshuva, avant-hier j'ai acheté une kippa, alors... Alors Hachem dit, oui, mais avant-hier, hein? Et quelques centaines de milliers de jours avant, alors, tu es le résultat de ce que tu as vécu. Alors comment on va faire? Et ça, c'est comme ça, hein? C'est marqué dans le Gaon de Vilna qu'à la fin de sa vie, que comment on fait? C'est pas qu'on vient au tribunal et Hachem dit à l'homme, alors, qu'est-ce que ça fait de ta vie? Et tu dis, écoute, j'ai fait ça. Non, on n'a pas besoin que tu parles. On te fait asseoir, il y a une salle immense avec 600 000 personnes, les tzadikim au premier rang avec ta famille, tes parents, tes grands-parents, tous les gens qui t'ont connu et qui sont morts. Ils sont là. On prend ton œil, on le met dans un lecteur de DVD, et toute ta vie, elle passe, qui a été filmée par ton œil. Parce que les gens, ils disent, oh, je m'en fous, il n'y a pas de témoin, mais HBEB, c'est toi qui as filmé. En plus, les scènes les meilleures, t'as zoomé. Et il y a toute la famille qui est là en train de regarder. Imagine la grand-mère, la Lafreha. C'était la responsable du mikveh de Meknes. Elle, pendant des années, elle s'est tuée pour avoir des enfants de tzadikim. Elle a fait des prières, elle a fait des prières. Elle a fait... Et toi, t'es la petite fille. Et elle te voit là, un samedi soir. Jennifer, qu'est-ce qu'elle fait Jennifer dans une voiture avec Emzrob, hein? Mais qu'est-ce que tu fais là-bas, Jennifer? Alors toi, tu te retournes, tu dis, mamie, regarde pas. Non, non, non. Oh là là, on peut couper ce passage-là. Oh là là. Et passe au ralenti. C'est toute ta vie. C'est pas possible. Il y a tout, tout, en détail, en détail. Et c'est abominable. Comment tu vas faire? Alors, Akjbourou, il a donné la teshuva. Qu'est-ce que c'est la teshuva? C'est une option au montage. Très intéressant pour les gens qui font un peu de cinéma, ils peuvent comprendre. On peut opérer certaines coupures dans le film de ta vie. Ça t'intéresse ou non? Bon, ça intéresse. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il te permet, si vraiment tu fais une teshuva sur les choses qui sont passées, que on les efface. Alors toi, tu vas me dire, mais attends, effacer, on peut pas effacer ce qui est fait. Ce qui est fait, est fait. Elle dit la Gemara, elle dit, voilà, un type, il a tué. Et il fait teshuva. Ou la Gemara, elle dit, il a fait une relation adultère et il y a un enfant qui est né, un mamzer, un bâtard, il est né. D'accord? Il est né. Donc, maintenant, tu me dis, je fais teshuva. Je regrette amèrement ce que j'ai fait, tout ça. Mais le bébé, il est là, le bébé. C'est pareil. L'autre, il a tué. Alors, qu'est-ce que dit la Torah? Celui qui a tué, ici, fait teshuva, alors on lui efface la faute. Donc, l'ange de la mort, il vient pour tuer le tueur. Il n'y a pas de tueur. Il a disparu. Il y a un meurtre. Il y a un tueur. Il n'y a plus de tueur. Il y a une victime, mais il n'y a pas de meurtrier. Le crime parfait. Et c'est compliqué. Imaginez le mort. Il dit, bon, qu'est-ce que je fais? Moi, je me lève. Je fais quoi, moi? Non, c'est embrouillant comme histoire. Alors, elle dit la Torah qu'à partir du moment où la personne a fait teshuva, l'acte, il existe. Le meurtre a été fait. Le mort, il est mort. Mais la personne, elle n'est plus, entre guillemets, apparenté à cet acte-là. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement changé, elle a tellement regretté, elle a tellement pleuré qu'elle n'a plus aucun rapport avec ça. Donc il n'y a plus de meurtrier. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Imaginez un enfant, par exemple, qui est un glandeur, mais il y a des enfants, des fois, qui sont proches du fossile. Je ne sais pas si vous arrivez. Ils sont sans mouvement comme ça. D'accord? Bon, tu étais son professeur pendant 2 ans, 1 an disons, et tu le retrouves 3 ans après, un travailleur. Il prend des notes, des trucs, il filme, il écrit, il enregistre, il travaille. Tu viens ici, tu dis, dis-moi, t'as pas un cousin qui s'appelle Belletti? Ou là un frère, parce qu'il sait trop comment tu ressembles à quelqu'un que j'ai connu, mais c'est pas possible que ça soit toi. C'était l'autre, c'était une fresque, et toi t'es une Formule 1, c'est impossible. Il dit, si, c'est moi. T'arrives pas à le croire. Maintenant, le premier, celui que t'as devant toi, il est là dans le monde. Mais le premier, il est où? Où il est? Je sais pas, il a disparu. Où il est passé? Exactement pareil. Ça, la teshuva. Donc, l'acte, il existe. Mais seulement, celui qui l'a accompli, il a disparu. Il dit, maintenant, si quelqu'un, il comprend ça. On a dit, un homme, à la fin de sa vie, il est le fruit de ce qu'il a vécu. Si quelqu'un ne fait pas teshuva, c'est vrai que le cumul se fait. Le cumul, il peut être doux, le cumul, il peut être amer, le cumul, il peut être dégueulasse. Ça dépend ce qu'il a mis dans sa vie. Des fois, il y a des choses qui sont dégoûtantes. Je sais pas, quelqu'un qui, par exemple, sur 20 ans de mariage, un type, il dit, moi, ma femme, j'ai trompé qu'une fois. Ça annule tout, ou il dit, oh, pff, ça s'annule dans la majorité. Ou il dit, non, il n'y a plus rien. Il dit, mais je te promets, une fois, c'est tout, je te promets, je te jure, une fois et c'est tout. Après, je suis revenu à la maison, je continue à m'occuper de toi, normalement. Il y a certaines fautes qui cassent tout, ou non? Ouais. Mais des fois, il y a des choses qui, c'est des petites épices. Bon, ça donne un goût. C'est comme des fois les haricots, ils sont limites. Tu peux les manger, mais ils sont limites. Il faut les manger vite, hein, parce qu'ils sont... Il y a des avérotes qui donnent un petit goût à la vie. Il y a des avérotes qui pourrissent la vie. Il y a des avérotes que bon, je ne te rends même pas compte qu'elles te font un problème. Donc quelqu'un, à la fin, il va avoir le cumul de tout ce qu'il a vécu, et en fonction de ça, on va le juger sur le résultat. Alors, la chance qui lui est donnée, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il est capable, au fur et à mesure qu'il fait teshuva, de déraciner les fautes qu'il a fait avant. Alors regardez ce qu'il dit le Messie à Técharim. Sur la charata, sur le regret. She'avon sar mamash mi'amitziut ve'ne'ekar bema she'archav mitzta'er u'mitnachem alma she'aya le'mafria. La faute, elle s'enlève vraiment de la réalité. Ve'ne'ekar, elle est déracinée par le fait que maintenant, il souffre et il se lamente sur ce qui était rétroactivement. C'est-à-dire quelqu'un qui regrette quelque chose, il a un pouvoir d'enlever de la réalité un acte qu'il a vécu. Bon, je vais prendre le problème à l'envers. Quand on fait quelque chose, j'ai fait ça, d'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire j'ai fait ? Mon corps, il a fait. Maintenant, quel est le degré de pénétration d'un acte à l'intérieur d'une personne ? Regardez, le geste. Ouais, j'ai fait le geste, voilà. J'ai pris du cochon, je l'ai mis dans la bouche. Ah, je l'ai mis dans la bouche. Après ça, j'ai voulu manger du cochon. Donc j'ai une part psychologique de motivation. Après ça, j'ai une part émotionnelle parce que je l'ai kiffé ce cochon, il était bon. D'accord ? Maintenant, il faut que je fasse teshuva sur les trois dimensions de ma avéra. Maintenant, la plus difficile, c'est la dimension intérieure. La plus facile, c'est la dimension extérieure. Parce que plus une faute, elle est intériorisée et plus elle est difficile à regretter. Par contre, plus elle est superficielle, plus elle est extérieure, plus elle est physique et plus elle est facile à regretter. Pourquoi ? Parce qu'au fond, elle ne m'appartient pas. Je ne suis pas dedans. Je l'ai vécu. Par exemple, il y a des gens qui n'arrivent pas à se rappeler la troisième personne avec qui ils ont fait des bêtises. Ils ne se rappellent plus. Ben, tu sais, il y en a eu 18 ou 20 ou 30, je ne sais pas. Ils ne se rappellent plus la troisième. Mais une image dégoûtante qu'ils ont vue quand ils avaient 8 ans, ils s'en rappellent jusqu'à aujourd'hui à 48 ans. Pourquoi ? Parce que l'image, elle s'imprègne à l'intérieur de ton cœur. Alors que l'acte, il est dans ton corps. Et le corps, c'est extérieur. Maintenant, quand tu as de la saleté sur toi, tu te laves. Va la chercher, la saleté. Mais quand tu as ingurgité en intraveineuse une pourriture dans ton cœur, va l'enlever maintenant. Donc, plus tu as participé intellectuellement et émotionnellement à la faute, et plus elle va être dure à faire tes chouvas. Plus la chose, elle est extérieure et physique, et plus elle est facile à faire tes chouvas. Donc c'est la nature de la faute qui va déterminer le genre de nettoyant que tu vas être obligé, que tu dois utiliser pour l'enlever. C'est pareil. Il y a des fautes chaudes et il y a des fautes froides. Vous comprenez ça ? Il y a des fautes froides. C'est quoi une faute froide ? C'est une faute intellectuelle. Quelqu'un, il pense qu'il y a deux dieux. Il dit, je pense qu'il y a deux dieux. Il y a deux dieux ou il y a deux hommes pour chaque dieu. Comme Gérard, deux par dieu. D'accord ? Ouais. Chacun, il a une façon de... D'accord. Alors, c'est une faute intellectuelle. Alors, une faute intellectuelle, elle est froide. Alors, sur une faute intellectuelle, on fait une teshuva froide. On fait une démonstration, on trouve la preuve dans la Torah, on dit, bon, ben, il n'y a qu'un seul Dieu, il y a un seul Dieu. D'accord. Une faute chaude, vous savez, les fautes chaudes, c'est comme des certains quartiers de Paris qui n'ont pas de chauffage central, on appelle ça des quartiers chauds. Ils sont chauds d'origine, pas besoin de chauffage. Bon. Alors, il faut faire une teshuvah chaude. Alors, il faut des pleurs, il faut se remettre en cause, il faut travailler, il faut regretter. Pourquoi ? Parce que le type de avéra, il nécessite un type de teshuvah. Comme le type de tâche, il nécessite un type de détachant. Quand tu vas chez au pressing, il te demande, c'est quoi, monsieur, ça ? Il dit, devinez. Il dit, non, c'est quoi ? C'est du jaune, c'est du jaune d'œuf, c'est de la peinture jaune, c'est le sang de... C'est la cervelle de votre belle-mère, c'est quoi ? Faut que tu donnes une réponse. En fonction de la réponse, il va utiliser tel ou tel détachant. Exactement pareil. Chacun, il connaît l'origine de la faute. Alors, en fonction de la faute, il doit trouver le détachant qui correspond. La harata, c'est le détachement par le regret. Donc, à partir du moment où toi, tu te détaches de la chose, cette chose-là ne fait plus partie de ta réalité. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que quand toi, tu fautes, la faute en elle-même, elle a disparu. C'est un acte dans l'espace. Il a disparu. Il a été filmé par toi. Mais maintenant, il n'est plus là. Il fait partie du passé. Donc, l'acte lui-même a disparu. Qu'est-ce qui reste ? Il reste l'empreinte de l'acte chez toi. L'empreinte de l'acte chez toi. Cette empreinte-là, c'est là que tu dois faire tes chouvas. Donc quand il dit le Messie des Charim, que le fait de pleurer, le fait de regretter la faute, ça déracine la réalité, la Metsiout, c'est quoi la Metsiout? C'est quoi la réalité? La réalité, c'est pas la réalité de ce qui a été vécu. Ça a été vécu. La réalité, c'est ce qui s'est imprégné dans ton cœur au moment où tu as fauté. Pour ça qu'il dit Rav Dessler, à l'ève ou à Metsiout. Le cœur, c'est ça la réalité. Bon, je ne vais pas trop approfondir ça parce que ça va prendre la nuit. Mais essayez de réfléchir à l'occasion. On dit le cœur, c'est la réalité. Ça veut dire qu'au fond, un homme, il n'est pas ce que tu vois. Un homme, il est ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est à l'intérieur. Et chacun, il sait ce qu'il est. C'est ça la réalité. Tu dis, mais les gens pensent que je suis un type bien, ils me regardent et tout, ils me serrent la main, ils me font plaisir, et ils me font cavode, et je suis beau, et je suis bronzé. Ne t'occupe pas de l'extérieur. Toi, à l'intérieur. Si tu t'habitues à penser que ce qui est la réalité, c'est ton intérieur, d'accord? Donc, quand tu vas être en accord avec la réalité, tu vas être en accord avec toi-même. Mais si tu penses que la réalité, c'est l'extérieur, donc d'être en accord avec la réalité, ça veut dire d'être en accord avec le regard des autres. Donc, tu es devenu un acteur. Donc, si on dit que la teshuvah, par le biais de la charata, c'est-à-dire du regret, elle déracine, ce qu'il dit le Messie Tesharim, sar mamash mi ametziut, ça enlève la faute entièrement de la réalité. Alors on a expliqué maintenant la réalité, c'est quoi? C'est l'empreinte de la faute chez toi. Vene ekar, elle est déracinée. Pourquoi? Par la souffrance. Parce que la souffrance, c'est le contraire du kiff. Or le kiff, ça agit comme un espèce d'acide qui imprègne la chose en toi. Par contre, la souffrance, c'est comme un dissolvant qui dilue la chose en toi. C'est clair? Alors si c'est comme ça, regardez ce qui est marqué dans le Midrash. Zifre Elohim Roach Nishbera. Zifre Elohim, ça veut dire ce sont des sacrifices pour Hachem. Roach Nishbera, un esprit cassé. C'est-à-dire quoi? Ils ont dit les Chachamim sur ce pasuk. Minain lemi shehu ose tshuva. D'où est-ce qu'on sait que celui qui a fait teshuva, shema'alin alav, que on va considérer qu'ilu ala le Yerushalayim, que c'est comme s'il est monté à Yerushalayim, ou bana et bet amigdash, il a construit le temple, ou bana et amisbeach, il a construit l'autel, ve makriv ala kol a korbanot, et qu'il a déposé dessus tous les korbanot, tous les sacrifices. D'où est-ce qu'on sait ça? De ce pasouk là, zifre Elohim roar nishbera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de quelqu'un qui fait des teshuva, ça veut dire que vraiment il regrette. Il a cassé son cœur. Alors le fait qu'il a cassé son cœur, on considère comme s'il a construit le temple, comme s'il a construit un hôtel, comme s'il a mis les corbanotes dessus. Pourquoi? Parce que le centre de la personne, c'est son cœur. Maintenant, une personne, elle a deux manières. Ou elle va écouter son Yetzerara, son mauvais penchant, ou elle va écouter son Yetzeratov. Maintenant, quand elle casse, en général, c'est pas son cœur à elle qu'elle casse. Elle casse son Yetzerara. Parce que quand quelqu'un il évolue, ça fait jamais mal. Si ça fait mal, c'est parce que c'est le négatif qui fait mal. Je vous ai déjà expliqué ça l'année dernière. Quand on fait de la musculation, pourquoi on a mal? Pourquoi on a des courbatures? Parce que quand on ne fait pas de sport, on cumule des toxines dans le muscle. Maintenant, en faisant du sport, on élimine les toxines. Maintenant, l'élimination des toxines dans le corps fait mal. Alors, quand tu as fini d'éliminer les toxines, tu n'as plus mal. Maintenant, le problème, c'est que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un peu de musculation. Ils ont mal. Alors, ils disent, j'arrête. Après, 2 ans après, ils recommencent. Et ils ont mal. Et ils arrêtent. Alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est faire pendant 1 semaine ou 2. Et quand tu n'as plus de courbature, tu continues et tu n'auras plus de courbature. Donc, la chorma, c'est jamais s'arrêter. Mais celui qui fait et qui s'arrête, il aura toujours mal. Parce que la toxine, elle s'accumule dans le fait que tu ne le fais pas. Maintenant, la teshuvah, c'est pareil. Pourquoi la teshuvah, elle fait mal? Parce que tu es obligé de détruire les toxines que tu as cumulées en fautant. Or, la mitzvah, c'est la prise de conscience. La teshuvah, c'est la prise de conscience. Et la faute, c'est l'inconscience. Maintenant, l'inconscience cumule les toxines. Le jour où tu veux te débarrasser de tes toxines, ça fait mal. Comment ça s'appelle? Roach Nishbera. Mais sur quoi t'as mal? Sur quoi t'as mal? T'as mal sur la négation que tu as accumulée. Donc c'est bien, ça prouve que tu es sur le bon chemin. Comme la musculation. Si t'as mal, c'est ton muscle qui est en train de grossir. Si t'as pas mal, si tu te fais des haltères en papier, tu fais comme ça. Je comprends pas, avec tout ce que j'ai pris comme protéines, je devrais... C'est bien les protéines, mais il faut faire du sport aussi. Pourquoi ? C'est comme ça. Exactement pareil. Il y a une douleur dans la teshuva, elle est positive. Parce que ça veut dire que tu es en train d'éliminer le négatif que tu as accumulé. Et c'est dans tout. Regarde dans le couple. Dans le couple. Tu fais des efforts, tu fais attention, tu parles, tu prends du temps, tu discutes, tu as de la douceur, de la tendresse, de l'attention, de l'amour. Très bien. Un jour, tu te reposes sur tes lauriers. Tu dis, bon, on n'a pas le temps, c'est pas évident, on travaille, on n'a pas le truc, j'ai pas la tête, et puis il y a la télé, il y a un match. Attention. Tu cumules des toxines de couple. Un jour, tu fais, ouah, de lourdeur, bien. Tu le vexes, ou elle te vexe. Puis maintenant, il faut que tu t'excuses. Il faut que tu reviennes. Mais si tu t'es pas habitué à détruire doucement, doucement ton amour propre au profit de ton couple, pendant le temps où tu ne l'as pas détruit, il s'est reconstitué. Vous savez que l'amour propre, il a une tendance extraordinaire à se reconstituer. Maintenant qu'il s'est reconstitué ton amour propre, c'est dur d'aller t'excuser bien que tu as tort. Pourquoi ? Parce qu'il faut éliminer les toxines. Toxines de couple. Toxines de travail. Pendant 2 ans, tu fais un travail où tu fais rien. Tu pointes le matin, tu restes comme ça, tu touches des 10 000. La boîte, elle ferme, tu rentres dans un vrai boulot. Tu t'assois, le mec, le deuxième boulot, tu dis, bon, bah, faut y aller. Tu dis, écoutez, j'ai pas... Tu dégages. J'ai pas l'habitude. À cause des toxines. Donc, l'activité, elle détruit les toxines. La non-activité cumule les toxines. Le jour où il faudra se débarrasser des toxines, tu auras des courbatures. Ça s'appelle la teshuva. C'est une première période. Après, tu n'as plus de courbatures parce que tu as compris que c'est pour ton bien et tu avances. Si tu n'es pas prêt à avoir les courbatures, toute ta vie, tu auras des courbatures. Cyclique. Chaque fois que tu as une rama, hop, tu reprends les courbatures. Et tu t'arrêtes et tu recommences. Mais je regrette et je reviens. C'est pas possible. On peut faire toute sa vie des allers-retours entre la synagogue et jouer les pinces. Combien ? Un jour, tu vas dire, bon, je vais choisir. Oula, oula. Exactement pareil. Ici, c'est marqué que Ruach Nishbera, le cœur qui est cassé, c'est ça la teshuva. Et je vous dis, il n'y a rien de négatif. On ne parle pas du cœur positif. On parle du cœur négatif. C'est-à-dire que si toi, tu casses ton Yetzerara, c'est sûr que ça fait mal. Parce que comme tu étais sous sa domination, maintenant que tu lui dis ferme là, c'est difficile. C'est très rare que le petit drogué, il casse la figure à son dealer. Et le dealer, c'est le Yetzerara. Mais un jour, tu n'as plus envie d'être dépendant de la drogue. Tu ne veux plus être dépendant de ton Yetzera. Il faut que tu casses la figure à ton Yetzera. Mais comme tu croyais que ton Yetzera, c'était toi, tu as l'impression de te casser toi-même. Alors qu'en vérité, ce n'est pas toi. La preuve. Parce qu'une fois, quelqu'un m'a dit ça. Il m'a dit, oui, mais alors c'est déprimant. Alors si on se casse, je dis, mais non, tu veux la preuve. La différence, elle est simple. Quand tu écoutes ton Yetzera, tu augmentes ta déprime. Mais quand tu casses ton Yetzera, tu augmentes ton sentiment de libération. Donc tu vois bien qu'il y en a un des deux qui est faux. Sinon, comment ça se fait ? Comment ça se fait que tu te sens plus libre ? Alors, si c'est comme ça, il y a encore un autre midrash. Dans Yalkut Tehilim, c'est marqué comme ça. Sha'alou la chorma, on a demandé à la sagesse. Chote ma'oncho. Celui qui faute, quelle est sa punition ? Donc on a demandé à la sagesse, vous avez entendu la qualité de sagesse, vous voyez, on lui a demandé quelle est la punition pour quelqu'un qui faute. Amra la Emel aura dit, Chotim tirdaf ra'a, les fauteurs, le mal les poursuivra. Ça veut dire, on dit en anglais, chlet. Sha'alou la nevoa, ils ont demandé à la prophétie, qu'est-ce qu'elle pense, quelle va être la punition, c'est-à-dire le fauteur, quelle est sa punition. Elle a dit la nevoa, anefesh achot et itamut. L'âme qui a fauté, elle va mourir. Pareil, très très angoissant. Shalou la Torah, ils ont demandé à la Torah, qu'est-ce qu'elle pense ? Amra la M, elle leur a dit, Yavi Hashem veit kaperlo, qu'il amène un sacrifice et que Hashem et qu'on lui pardonne. Il expie sa faute. Shalou la Kadosh Baruch Hu, on a demandé à Hashem, Amra la M, yaase tshuva veit kaperlo, qu'il fasse teshuva et on va lui expier sa faute. Dirtiv, c'est marqué, Tov veyachar Hashem. Il est bon et il est droit, Hachem. Al ken yore chataim baderech. C'est pourquoi il va orienter les fauteurs sur le chemin. Parce qu'il va enseigner aux fauteurs un chemin pour faire teshuva. Alors, nous, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui est marqué dans ce midrash? On a demandé à la sagesse, donc c'est le côté intellectuel. On a demandé à la prophétie, ça veut dire c'est la capacité d'anticiper dans le temps. On a demandé à la Torah. Les trois réponses angoissantes. On a demandé à la sagesse, elle a dit, il va mourir. Il va fauter, c'est foutu. On a demandé la prophétie, impossible. On a demandé la Torah, il faut amener un corban. C'est incroyable. Alors où est la teshuvah? Alors, la logique, elle est comme ça. Si quelqu'un, il prend l'amplitude de la faute, si quelqu'un, il se rend compte du côté dynamique de la faute, du côté puissant de la faute, il va se désespérer. Je ne sais pas si vous me suivez. Si on te dit, tu sais, il y a une bombe de 3000 kilos en bas de cet immeuble dans lequel vivent 4000 personnes. Et ce bouton-là, il déclenche la bombe. Et toi, tu appuies sur le bouton. On te dit, il y a 2 litres de poison et ce tuyau, il va desservir en eau potable toute une ville de 100 000 habitants. Et avec une goutte, on peut tuer 100 000 habitants. Et toi, tu mets les 2 litres. Mais tu dis, je regrette. Mais qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est une réaction en chaîne. Celui-là, il boit, il meurt. Il donne à boire à ses enfants, il meurt. Fait le biberon de la petite, elle meurt. Tu dis, mais je regrette. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est exactement pareil. Quand la verra, on a dit, c'est pas un point, c'est pas un acte, c'est une chaîne. Ça entraîne ça, qui 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 entraîne ça. Ça entraîne. Ton cœur, il s'est pourri. Ta tête, elle est à l'envers. T'as perdu ta proximité avec Hachem. Tu t'es rapproché de lui, etc. T'as pris des mauvaises habitudes. T'as changé ton cercle d'amis. Tu t'es éloigné de ta pureté. T'as détruit ta pudeur. Tu as détruit ta finesse. Combien? Maintenant, tu viens, tu dis, je regrette. Mais qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que tu fais? Un type, il se jette de l'avion. Le parachute! J'ai pas de parachute! C'est fini. Alors, si quelqu'un y voit la faute, il demande à la sagesse, à ton avis, comment ça va se terminer? Mais tu sais pas, demande à un cancérologue. Tu vas voir un cancérologue, tu lui dis, écoutez, il est touché à 400%. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu vas dire le médecin? Ben, c'est foutu. Tu demandes à la prophétie. Tu dis, écoutez, l'histoire, elle est pourrie complètement. Ça va se terminer comment? C'est foutu. Il a tué 91 personnes. Il y a 1 million de témoins. Il est au tribunal avec 2 flics, un de chaque côté, et il y a le juge devant lui. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Il va être condamné. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu regardes la teshuvah, automatiquement, tu vois quelque chose d'extrême. Parce que quand tu vois la faute, tu vois quelque chose d'extrême. Et ça, les gens, ils comprennent pas. Ils sont nia. Vous voyez, par exemple, il y a 248 mitzvot assez. Dans la Torah, il y a 248 mitzvot qu'il faut faire. Mais elle était finie. 48 mitzvot. 248. Maintenant, sur un bitoul mitzvot assez, quelqu'un qui ne fait pas une mitzvot assez, et dit, tiens, aujourd'hui, je mets pas les tefilines. Je ne les mets pas, je n'ai pas le temps, je les mettrai demain. Aujourd'hui, il ne les a pas mis. Il faut 40 jours de jeûne pour un bitoul assez, une annulation d'assez. Pour un karet, c'est-à-dire un homme qui dort avec une femme nida, jeune fille ou mariée, d'accord? Et toutes les jeunes filles sont nida. 650 jours de jeûne. J'ai plus faim. Maintenant, c'est vrai que la gravité de la faute, elle dépend de la conscience de la faute. Je suis d'accord avec vous. Et de la connaissance de la faute. C'est vrai. Donc quand on ne sait pas, c'est moins grave. Mais maintenant, vous savez. Ah bah oui, c'est comme ça la vie. Alors, c'est pareil pour la fille ou le garçon, n'ayez pas peur. Hein. Vous jeûnerez ensemble. Non, les gens disent, nous vieillirons ensemble. Non, on jeûnera ensemble. Donc, alors, comment tu vas faire? C'est vrai, c'est abominable. Tu n'as même plus envie de vivre, tu dis je vais crever, c'est mieux pour moi. D'un autre côté, regardez ce qui est marqué. C'est marqué à propos de Nineveh. Vous savez, la ville de Ninive. On a demandé à Jonas, Yona, d'aller annoncer à la ville qu'elle est détruite. Il a été là-bas, il a dit Od arbaim yom ve Nineveh nefechet. Encore 40 jours et Nineveh va être retourner, néfechet, ça veut dire retourner, ça veut dire détruire, genre un raz-de-marée ou un tremblement de terre, la ville va être détruite. Alors il dit le Midrash, onéfechet vénécherevet, où elle va être retournée et elle va être détruite, onéfechet, où elle va être retournée, mira letov, du mal au bien, chez Yahasu Tshuva, parce qu'ils vont faire Tshuva. Ça veut dire quoi? C'est que ton acte, il est pourri. Il va amener une conséquence abominable. Il va y avoir un mort. Et a priori, c'est toi. Mais, tu peux choisir. Qui c'est qui va mourir en toi? Soit c'est toi qui va mourir, soit c'est ton Yetzirara qui va mourir. Maintenant, si tu tues ton Yetzirara, oui, c'est ça la Teshuvah. Maintenant, il y a des gens, des fois, par bonté, ils préfèrent mourir à leur place de Yetzirara. Je ne sais pas si vous... C'est marqué dans le pasouk. Yamut bechet o. C'est marqué. Ou il va mourir par sa faute. Ou yamit et avato. Chez Evio lechet o. Ou un homme, il va tuer lui-même pour la faute qu'il a fait. Ou il va tuer l'envie qu'il a amené à la faute. Maintenant, dans les deux cas, pour la Torah, c'est pareil. C'est-à-dire, qui c'est qui va faire le pari de dire que je ne vais pas mourir pour ce que j'ai fait. Je vais tuer ce qui m'a engendré, qui m'a entraîné à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi-même, il y a quelqu'un de bien, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de pur, mais qui s'est laissé entraîner par un pourri. Maintenant, où le pourri, il va t'emmener avec lui jusqu'au bout, ou c'est lui qui va mourir? C'est comme une cordée. Vous savez, on monte. Toi, tu montes l'Everest. On est sur une falaise de 1800 mètres et on est deux. Alors, en haut, il y a le type et moi, je suis le deuxième en cordée. On est accroché. Et le type, son téléphone, il sonne et son voisin lui dit qu'il vient de voir sa femme partir avec le boulanger. Ah, il dit quoi? Il dit, oui, je te promets, elle est partie avec. Si c'est comme ça, je préfère mourir. Et qu'est-ce qu'il fait le mec? Il se jette. Et toi, tu vois qu'il se jette. Et t'es encordé, même si vous vous accordez pas toujours, mais là t'es encordé. Tu dis, mais tu connais les lois physiques. Dès qu'il va dépasser ta hauteur, c'est une loi physique, il va t'entraîner avec lui. T'as deux solutions. Ou tu coupes la corde, ou tu plonges avec. Alors dis-moi, quel degré de solidarité, quel degré d'identification tu as développé avec ton Yetzer HaTov pour qu'au moment où il va t'amener à la mort, tu plonges avec? Yetzirara, pour que tu plonges avec. Combien quelqu'un il peut croire que son Yetzirara c'est lui? Combien il peut l'aimer? Combien il peut aimer faute? Il peut aimer la faute et la bêtise et les angoisses pour qu'au moment où il voit que vraiment il va dans le mur, il continue. Comprenez ou non? C'est pas que dans l'autre monde, des gens y croient. Oui, mais vous savez, dans l'autre monde, on sera pas puni. Dans ce monde-ci, déjà, tu vois pas que la faute elle t'emmène dans le mur. Mais regarde ta vie, regarde ton moral, regarde ta pureté, regarde ton couple, regarde tes enfants, mais tu vas dans le mur. Mais tu vois pas que tu vas dans le mur. Tu le vois. Et jusqu'au dernier moment, tu vas dire, eh bon, ben, c'est moi, c'est ma vie, j'accepte, je m'assume et je crève. Mais c'est pas toi. Tu es assis dans un train qui va dans le ravin. Tu peux sauter du train. Saute du train. Tu mets le train va crever, mais qu'il crève. Mais c'est dur de faire tes chouvas. Mais t'as pas compris, cette difficulté que tu vas prendre dans la distance avec le Yetzirara, c'est une petite mort. Et ben c'est cette mort là qui s'appelle la teshuvah. Mais non, tu peux crever vraiment si tu veux. Mais non, j'ai pas dit ça. Maintenant je te menace que tu vas crever. Non, t'as pas compris, c'est que dans le spirituel, des fois il y a un point de non-retour qui est atteint. Alors, il y a une mort spirituelle. Alors, même si quelqu'un ne meurt pas physiquement, des fois il va tellement loin dans la pourriture. Je ne sais pas, quelqu'un qui a fait inceste avec sa fille pendant 10 ans, c'est quand même, il peut faire teshuvah, mais comment il va faire teshuvah celui-là? Comment il va faire? Alors, vous me dites, mais c'est marqué dans la Torah, hein, on peut faire teshuvah sur tout. Je te dis, il y a des points de non-retour. Il y a des points de non-retour. Celui-là, en un été, il a trompé sa femme 7 fois. Genre, le chiffre. Comment il va faire? Celui-là, ça fait 12 ans qu'il embrouille son frère. Tous les mois, il prend de l'argent, il lui donne pas de salaire, il dit, tu sais, on peut pas. Et lui, il s'éclate avec l'argent. Et maintenant, il fait teshuva. Comment il va faire pour rendre? Comment il va expliquer à son frère que pendant 12 ans, il est obligé de prendre le RMI alors que lui, il s'éclate sur la côte? Comment il va expliquer ça à son frère? 12 ans. Il va lui dire, mais il est là. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Vous comprenez ou non? C'est que déjà, la faute, elle t'a pourri la vie à cause de tous les compromis que tu étais obligé de faire avec ta conscience. Et maintenant, tu regrettes. Alors la Torah, elle te dit, c'est vrai que ça va être douloureux. C'est vrai que ça va être dur. Mais c'est le prix à payer. Ce prix-là, c'est quoi? C'est que c'est lui qui va mourir et pas toi. Parce que toi, tu te désolidarises du Yetzer Hara, alors tu es sauvé. Alors si on a compris tout ça, on peut commencer à répondre aux questions qu'on a demandées au début. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il a dit le Rambam? Si quelqu'un il a une majorité de mitzvot, il est tzadik. S'il a une majorité d'averot, il est rachat. Et s'il est moitié-moitié, on a dit quoi? On a dit, il est benoni, il est moyen. Alors je vous ai dit, il y a deux manières de comprendre. Soit que c'est une comptabilité, on compte 642,33, et on compte vraiment. Ou c'est une comptabilité, mais qui est une définition par rapport à la... ce qu'on appelle la ma'out à Adam, la nature de l'homme. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas regarder la faute que tu as fait, je vais regarder qu'est-ce que tu es devenu à cause de cette faute. Qu'est-ce que tu es devenu? Donc, si je regarde, qu'on regarde la nature de la personne, donc, la teshuvah, ce n'est pas de faire une mitzvah de plus, c'est que ta ma'out, elle change. Ton essence, elle change. Maintenant, je vous dis, c'est très dur, quand on a pris une habitude, de prendre une autre habitude. C'est très dur quand on a pris un pli dans la tête de changer de pli. C'est très dur quand on a habitué son corps à certains genres de bêtises, de dire à son corps, il n'y en a plus. Et pourtant, c'est ça la nature de la teshuvah. C'est-à-dire que la nature de la teshuvah, c'est un changement dans la nature de la personne. C'est pour ça que le Rambam, il a dit le rov. C'est quoi le rov? C'est quoi la majorité? Pourquoi? Parce qu'en général, la majorité des actes de quelqu'un est représentative de sa nature. Celui-là, il ne fait jamais de cadeaux. Mais il est généreux. Non, il est radin. C'est la majorité. Celui-là, il ment tout le temps. Mais des fois, il dit la vérité. Il est menteur. Tu sais pourquoi? Des fois, il dit la vérité. C'est sa nature. La majorité de ses actes, elle définit sa nature. Maintenant, on avait dit le Rambam, il a dit... Si quelqu'un, le soir de Rosh Hashanah, il est majorité faute, alors il est condamné à mourir. S'il est majorité de mitzvot, il a zakai, il sort innocent du jugement, et il va vivre. Mais si quelqu'un, on a dit, il est benoni, il est moitié-moitié, alors on a dit son jugement, il reste en l'air jusqu'à Yom Kippour. D'accord? Et à Yom Kippour, on va voir s'il est majorité de mitzvot, majorité d'averot. Mais il dit le Rambam, s'il fait tshuva entre Rosh Hashanah et Kippour, alors... il sera Nirtam Lechaim, on va signer pour lui pour la vie. Mais s'il ne fait pas tshuva, alors on a demandé la question, on a dit, mais je ne comprends pas, pourquoi le Rambam il a dit s'il fait tshuva ou s'il ne fait pas tshuva? Mais ce n'est pas une question de tshuva. Pourquoi la tshuva, c'est une des 613 mitzvot? Mais puisqu'on a dit qu'on va d'après la loi de la majorité, donc même lui, s'il a fait 50% de mitzvot, 50% d'averot, il suffit qu'il fasse une mitzvah de plus, il va faire basculer du côté majoritaire, et donc il va être non. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut de toi, ce n'est pas un nombre de mitzvot. C'est vrai qu'il va y avoir une comptabilité très précise. Mais cette comptabilité, elle ne sert pas à définir un chiffre. Elle sert à définir une nature. Quelle est ta nature? Donc la teshuvah, c'est la seule mitzvah où la nature de l'homme, elle change. Et on veut que ta nature, elle change. C'est ça ce qu'on a dit. Maintenant, tu vas tuer quelqu'un. Tu vas tuer ton yetzer hara. Tu vas tuer tes habitudes. Tu vas tuer ta façon de voir. Alors c'est ça, c'est la nature. C'est pour ça que c'est marqué, il y a quatre choses qui sont coréa xardino chez la dame, qui déchirent le décret sur quelqu'un. Oui. C'est quoi? C'est la tzedaka. C'est le changement de nom. C'est le changement de l'acte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, vous savez, une condamnation, elle est toujours liée à des critères. Si on change les critères, on change la condamnation. Comme dans la maladie. Vous savez, des fois, les gens, ils téléphonent, vous savez, j'ai une personne qui est malade. Je dis, vous savez, il faut faire des mitzvot pour elle. Parce que si on lui a décrété qu'elle est malade, c'est par rapport à un certain nombre de fautes. Maintenant, si on rajoute des mitzvot dans la balance, donc on change le dossier. Si on change le dossier, on peut changer le décret. Et combien de fois j'ai vu des miracles avec ça? Maintenant, avec soi-même, c'est pareil. Si quelqu'un, il change dans ses actes, parce qu'il rajoute des mitzvot, il change dans son nom. Pas parce qu'il change de nom maintenant, il change de nom. Non. C'est que le nom, c'est quoi? C'est la renommée de quelqu'un. Si quelqu'un, il a une renommée d'embrouilleur, c'est son nom. Dès qu'on le voit arriver, on dit, tiens, voilà l'embrouilleur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, il change de nom, il change de renommée? Maintenant, les gens, ils disent, tu sais que Maurice, il est devenu comme ça, hein? Ah bon? Ouais. Il a changé de nom. Si celle-là, tout le monde dit, tu sais, c'est une fille facile. Si tu veux, si tu as envie de t'amuser. Elle a un nom, Hazé Shalom. C'est un nom comme ça, c'est comme les stations de train. Ouais, c'est un nom, d'accord. Alors, elle change de nom. Elle change de nom! Alors ça, c'est la teshuvah. Changement dans le nom, changement dans l'acte, changement dans la façon de penser. Maintenant, la personne, elle a tellement changé qu'on ne peut plus la rattacher à la personne d'avant. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des actes. C'est vrai qu'il y a eu des avérotes. Mais la personne, elle a tellement changé, elle a tellement regretté, elle a tellement pris sur elle, elle a tellement élaboré des différences dans ses habitudes pour ne plus refauter, que maintenant, elle a changé dans sa nature profonde. Donc, puisqu'elle a changé dans sa nature profonde, l'acte, il est encore là, mais là, le meurtrier n'est plus là. Le fauteur n'est plus là. Il n'y en a plus. Alors, il n'y a plus personne à condamner. Ça veut dire que la tshuva, c'est un changement dans la nature profonde. Et c'est sur cette nature-là que Akadosh Baruch Hu, il va accepter la teshuva de la personne. Alors, si c'est comme ça, on a dit, il y a trois niveaux dans la teshuva. On a dit, il y a quelqu'un qui fait ce travail-là. Et c'est vrai, Baruch Hashem, tous les ans, il y a des gens qui comprennent. Ils s'assoient, ils étudient, ils prennent sur eux, ils apprennent les lois, ils regrettent, ils pleurent vraiment, et on leur efface les fautes, et vraiment ils changent. Ça a pour eux. Il y a une deuxième catégorie de personnes, ça c'est sur eux que c'est marqué, que l'homme il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit à l'homme, reviens vers moi. Alors l'homme il fait teshuva, ce qui est marqué dans le Midrash. Première catégorie. Deuxième catégorie, c'est l'homme qui dit à Kadosh Baruch Hu, ramène-moi. Ce qu'on a dit, la personne qui a du mal à payer ses dettes. Mais quand même, elle fait un petit effort. Elle va un petit peu à des cours, elle change un petit peu, quand même, c'est Rosh Hashanah, c'est Kippour. Elle fait des efforts, elle parle, elle fait attention à ce qu'elle dit, elle fait attention à ce qu'elle mange. Elle met les téfilines le matin, elle fait un effort, petit effort. Alors, Akadosh Baruch Hu, il complète l'effort. Troisième catégorie, quelqu'un qui est à côté de la plaque. À côté. Mais au fond de lui, il sait que la Torah, elle a raison. Ça l'a fait vibrer un petit peu. Il a écouté, il a pris des claques, il a pris une berba dans le cours. Et son cœur, tout au bout, là-bas, au bout de son histoire, bien qu'il est venu pour draguer, quand même au bout, son petit cœur, il a fait une petite vibration comme ça. Mais genre un peu gelé de groseille. Comme ça. Une petite tourbillon. Je dis quand même, il a raison. Je suis juif. C'est vrai, quoi. J'ai une vie paumée, là, de fond de vie. Il faudrait que je fasse quelque chose. Un petit peu. Alors là, c'est marqué « Chouvez-nous, chénez-nous, kéhan. » Ramène-nous, nous deux, ensemble. Ça veut dire que beaucoup, il va faire un grand pas vers la personne. Mais ça, à Botaï, ça aussi, ça dépend de la nature profonde. Pourquoi? Parce que ça va dépendre du degré de sincérité. Il y a quelqu'un qui va avoir peur, qui va dire « Oh, je vais prendre des claques cette année, je vais changer. » Il y en a un qui va dire « Il a raison, la Torah elle est belle, je vais changer, il revient par amour. » Il y a quelqu'un qui prend conscience, qui dit « Bon, ben ça y est, ça suffit. » Une fois quelqu'un il m'a dit « Vous savez, Ben Chétrine, c'est pas évident, t'es court, t'es très grand, il faut revenir, faire, tu vois. » Je dis « Quel âge t'as ?» Il m'a dit « 48 ans. » Je lui dis « T'as déjà donné 48 ans au Yetzera. Tu as donné 48 ans. Alors donne-nous au moins 48 ans au Yetzera, Tom, je te souhaite. Au moins 48 ans. Qu'est-ce que tu veux donner, 3 ans, 2 ans ? 5 ans jusqu'à l'hémiplégie, pourquoi? Donne-lui autant. Exactement pareil. Quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il prend conscience. Et cette prise de conscience, elle provoque chez lui une lumière. Et cette lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change la nature de la personne. Alors c'est ça le principe de la teshuvah. La teshuvah, c'est quoi? C'est une prise de conscience. Et la prise de conscience de quoi? De la distance que tu as pris avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la société, elle est rentrée, la télé est rentrée, la bouffe, elle est rentrée, le tarif, les habitudes, les marques, tout est rentré. Maintenant, quand la bêtise, elle rentre, la Torah, elle sort. Et toi, tu t'es rendu compte, tu dis, écoute, je suis complètement visité par des choses qui me sont inconnues dans mon patrimoine juif. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je voudrais ramener la Torah. Quand tu rentres la Torah en toi, la bêtise, elle sort. Vous n'avez jamais vu un Sefer Torah avec une marque, ou la signe comme ça ou... C'est très rare. J'espère, j'ai vu des kippot comme ça. J'ai pas encore vu des téfilines. J'espère que je ne verrai pas de mon vivant des téfilines avec la marque comme ça, d'accord. Mais on ne sait jamais. Ils ont tellement d'esprit commercial. Ils sont capables. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle a compris combien la société l'a bouffé, la télé l'a bouffé, la mode l'a bouffé, le regard des autres l'a bouffé, sa culture l'a bouffé, les radios bidons l'ont bouffé. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai? Mais qu'est-ce que j'ai de juif? Qu'est-ce que j'ai de juif? Bon, je suis abonné à feuxjeux.com. Qu'est-ce que j'ai de juif? C'est quoi ton truc? Alors celui-là, il a une prise de conscience. Cette prise de conscience, il faut vite qu'il l'attrape et qu'il l'emmène au fond de son cœur et qu'elle remue quelque chose. Et ce petit remue-ménage-là, il faut qu'il s'en serve pour entériner quelque chose. Alors Akadosh Baruch Hu, il adore la sincérité, il adore la vérité, il adore les frissons, il adore ça. Alors pour ce petit frisson de 3 gouttes que tu lui as donné, il va te donner 1 tonne. Il va donner de l'aide, il va donner des cours, il va donner des rabbins, il va donner des amis, il va donner des encouragements, il va donner un patron qui te laisse le Shabbat, il va te donner. Mais il faut que tu lui donnes 1 miette de sincérité. Mais si tu dis, c'est bien, c'est intéressant, c'est beau, je vais le dire en Dvar Torah Shabbat, tiens, je vais le raconter en boîte. Ça veut dire que c'est resté de la culture pour lui. Son essence n'a pas été touchée. Et si son essence n'a pas été touchée, alors il va être fondamentalement le même. C'est pour ça qu'on fait Rosh Hashanah tous les ans. Vous me suivez ou non? Parce qu'une statue, on ne peut pas la tailler en un coup de pierre, un coup de marteau. Tu vois un caillou comme ça, tu tapes une statue. Oh, quelle force, quelle puissance. Même le meilleur sculpteur du monde, il n'a jamais fait une statue en un coup. Sinon, ça s'appelle de l'art moderne. Ouais. Mais avant, il fallait mettre des milliers de coups, et après il fallait mettre des heures et des heures de papier de verre, et après il fallait faire du polissage pendant des heures et des heures. Ça prenait du temps pour faire une œuvre d'art. C'est pareil, toi, pour devenir quelqu'un de bien, pour devenir un bon juif, ça prend à peu près 107 Rosh Hashanah, 107 Kippour, 107 Pessah, 52 fois 107 Shabbat, des milliers de pages de Gemara, des journées, des milliers d'heures de réflexion, des centaines de milliers de sensibilisations. Ça prend, mon frère, ça prend. Parce que demande à la pierre qu'est-ce qu'elle pense quand elle voit le marteau arriver. Et demande qu'est-ce qu'il pense le grain de papier de verre, le grain de papier de verre, d'accord, qu'on met sur la statue et qu'il se dit, mais je suis quoi, moi, dans cette œuvre? Et bien, c'est pareil. Chaque acte, chaque remise en cause, chaque sincérité, chaque kippour, chaque Rosh Hashanah, chaque effort, chaque mitzvah, sont en train de polir ta statue, sont en train de te construire, sont en train de faire de toi le bon juif qui va arriver devant un Kadosh Baruch Hu à 120 ans et qui n'aura pas honte de le regarder. Ou alors tu vas être un clébard. Tu dis, bon, oh, c'est pas évident. Bon, j'ai préparé un dossier justificatif pour expliquer parce que bon, j'ai pas mangé cachère, mais j'habitais juste au-dessus du Naouri. J'ai pas eu d'enfant, mais enfin bon, c'est normal, c'était difficile de trouver des préservatifs usés. J'ai été en boîte de nuit tous les samedis soirs. Bon, c'était le soir du Kippour aussi, oui, c'est vrai, c'est le soir du Kippour aussi. J'ai pas mis les téfilines, j'ai eu peur, j'ai dit, on sait jamais, on peut mourir. Hein, c'est, avec ce qui se passe avec la vache folle et tout ça, j'ai pas fait Shabbat, ben je ne pouvais pas, j'ai un magasin qui n'ouvrait que le samedi. Bah oui, c'était un magasin, oui, charcuterie fine, que porcine, que du porc. Oui, je sais, à Jérusalem, je sais, c'était à Jérusalem. Enfin, j'ai voulu lancer un autre courant, vous voyez. Oui, je sais, la chaise électrique, je sais, bon, ça va. Oui, alors. À Bataille, on a un cahier, chacun y remplit son cahier tous les jours pour expliquer pourquoi il ne fait pas tes chevaux aujourd'hui. Mais, à Kadosh Baruch Hu, lui, il a l'autre cahier, lui. Je ne sais pas si vous me suivez. L'autre cahier pour expliquer pourquoi tu n'as pas fait tes chouva. L'autre. Et il t'a donné les moyens. T'es en France, t'es en paix. T'es pas au goulag, t'es pas en Russie. T'es pas dans un camp de détenus, t'es pas sous pression. T'as du cachet, tu travailles, t'as la parnassa, t'as des amis, t'as des rabbins, t'as des cours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, ça va être dur de justifier. Hein. Ouh! Je sais pas si vous comprenez. Moi, tous les jours, je reçois des emails. Voilà, je voudrais me convertir. J'ai trouvé la vérité dans le judaïsme. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est grave. Je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que si, dans un monde tordu comme le nôtre, il y a des gens qui viennent de loin, parce qu'ils viennent de la Bretagne profonde, et qui comprennent que la Torah, elle a raison, alors toi qui baignes dans le jus de boulette... Mais comment ça se fait que t'as pas vu que la Torah, elle a raison? Comment t'as fait? Écoutez, ça fait quand même 3 ans que je vis en mardi, je vais à la prière, j'essaie de faire le shlichot une fois sur deux, bon, tous les samedis soirs, je suis obligé d'aller en boîte, c'est un minag, je l'ai juré sur la tombe de mon père, bon, d'accord. Son père était DJ à Los Angeles, il est obligé de... C'est un devoir de mémoire, bon, il faut comprendre. Mais combien tu peux te baratiner? Ah, c'est ça ce qui est marqué. La teshuvah, c'est une prise de conscience. Mais une prise de conscience, c'est ce qui va imprégner ton essence. Si ça ne touche pas ton essence, eh ben, c'est pas grave, c'est la hada, c'est gentil. T'es un mec bien, t'es gentil. Bon, allez, va nous faire un peu la prière. Écoute le chauffard, hein, écoute bien. Hein. Écoute le chauffard, hein, parce que peut-être tu reviendras dans un corps de bélier. Ça peut. D'accord. Non, le contraire. Quelqu'un il dit, bon ça va, j'ai compris, ça me touche profondément, et il va essayer de faire un travail en profondeur. Et je vous dis, je vous répète, jamais j'ai demandé à quelqu'un, au contraire c'est néfaste, que du jour au lendemain il devient le tzaddik de la génération. Non, juste qu'il comprenne et qu'il trouve et qu'il ressente une petite lumière dans son cœur, mais qu'il sente que cette lumière, elle a un goût de sincérité. Ça, c'est ça le début. Et à partir de ça, il va construire. Il va construire. Il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que ce goût-là, ça veut dire que c'est son essence qui est en train de changer. Mais s'il fait tous les actes de la terre, et toutes les prières de la terre, et toutes les mitzvot de la terre, mais qu'il ne sent pas à l'intérieur qu'il est en train d'évoluer, qu'il est en train d'améliorer sa proximité avec Hachem, alors c'est un singe. Il fait des mouvements. C'est mieux que rien. Parce que même avec des haltères en papier, à la finale, il va quand même avoir des muscles un jour. C'est la méthode Coué, d'accord? Mais ça n'aura jamais le nom de Teshuvah tel que la Torah l'a défini. D'accord? Voilà.